السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. En cette soirée du mercredi 14 Jumada al-Thaniya 1434 de l'Hégire, correspondant 24 avril 2013, bi'idhnillahi ta'ala. On continue, inshallah ta'ala, le cours sur l'ascétisme, c'est le deuxième cours. En même temps, on termine bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib, on va lire un peu, inshallah ta'ala, du livre. On va lire un peu du livre, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, la fois passée, on s'était établi, si vous vous souvenez, on a dit qu'un fils de Suleyman ibn Abd al-Malik vint s'asseoir à côté de Taous, qui ne s'en va pas vers lui. On lui dit, le commandeur, le fils du commandeur des croyants, s'est assis à côté de toi et tu ne t'es même pas tourné vers lui. Il répondit, je voulais qu'il sache qu'il y a des serviteurs d'Allah qui se passent de ce qu'ils possèdent. Très que Non. Pour, c'est pas celui-là. Pour montrer que les salafs, les salafs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'accordaient pas beaucoup d'importance au sultan et à sa clique. Non. Tu trouves de nos jours que beaucoup de savants, c'est-à-dire de faux savants, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont collés au sultan, etc. Dans quel sens? Dans le sens de profiter de la vie avec lui. Sinon, être avec le sultan pour lui donner des fatwas, pour tout ça c'est permis, c'est bien. Ça l'aide pour qu'il voit clair, etc. Naam. C'est pour ça qu'il y a un hadith, je me rappelle maintenant qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, il dit. Attendez, comment on commence Je vous donne sa fin, c'est sa fin qui a rapport avec le cours. Il dit وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتَتَنَ. Et avant cela, il dit مَنْ اتَّبَعَ السَّيْدَ غَفَلَ. Donc, la chasse, ou bien la pêche, il va s'y donner à fond. Il va devenir distrait. Ensuite, il a dit et celui qui s'approche de la porte, celui qui s'approche de la porte de du sultan, ça va lui arriver des fitnas, comme ça il a dit. Omen ata abwab sultan, celui qui va aux portes du sultan, il va quoi? Ça va lui arriver des fitnas, comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim, celui d'aujourd'hui inshallah ta'ala. Non. Afoun, c'est quoi le hadith, inshallah ta'ala? Tu venais de le hadith. C'est quoi le hadith? Remets-le, inshallah ta'ala. Remets-le, bidnillah. Voilà, c'est ça le hadith. Man bada jafa. Le prophète, aslam, a dit, celui qui va vivre à la campagne, il va avoir un cœur, vraiment, disons, presque scellé. Pourquoi? Parce que quand on vit à la campagne, vous savez, il n'y a pas des savants, il n'y a pas de science à la campagne. Les savants habitent la plupart du temps dans les villes. Il a dit donc son cœur va devenir vraiment, yani, disons, distrait. Woman taba as-sayd ghafal. Problème de la chasse. Et enfin, man ata abwab sultan iftatan. Et quiconque va aux portes du sultan, ça lui arrive des fitna. Al-Muhim. Donc on commence. Le fils de Taous, le fils de Taous rapporte de son père. Il a dit que son père avait dit la douceur de ce bas monde et l'amertume de et l'amertume de ce bas monde et la douceur de l'au-delà. Je répète, le fils de Taous, père, la douceur de ce bas monde et l'amertume de l'au-delà. De l'au-delà. Donc, qu'est-ce qu'il rapporte de son père? La douceur de son monde et l'amertume de l'au-delà. Ah. C'est-à-dire que c'est tout à fait le contraire. Ici, dans ce bas monde, le croyant, ah, il ne ressent pas la douceur de ce bas monde. Ça ressent. S'il la ressent, ça veut dire que il s'y est impliqué, classe. Il s'est noyé dans ce bas monde. Et quiconque se noie dans ce bas monde, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va s'oublier, c'est sûr. Donc faire des péchés. Donc, quiconque trouve la douceur ici, de ce bas monde, il va trouver demain une amertume quand il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'amertume, ça veut dire, yani, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'enfer, c'est sûr. Naam. Et le contraire, il a dit, et l'amertume de ce bas monde, et la tristesse dans ce bas monde, naam, envers, ça va donner quoi? La douceur de l'au-delà. La douceur de l'au-delà. Naam, rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Où il a dit Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Qala Sheikh al-Albani sahih. Hadith 412 fi sahih al-Jami. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que le bas monde était la prison du croyant et c'est le paradis du mécréant. Le bas monde, c'est la prison du croyant. Et c'est le paradis. Pourquoi c'est une prison pour toi? Dans le sens où tu fais ce que tu veux. Quand quelqu'un est dans la prison, est-ce qu'il fait ce qu'il veut? Il fait pas ce qu'il veut. Il est commandé, ça. Avant de faire une chose, on demande la permission. Le croyant, il est comme ça. Il est dans une prison, privé de mille et une choses. Mais c'est lui qui a voulu se priver. Il sait que c'est une prison, il a accepté. Pourquoi? Parce que il sait qu'on ne peut pas avoir, yani, on ne peut pas avoir deux paradis en même temps. Tu choisis, là, t'as là, te fait choisir. Ou bien la prison ici, et le paradis dans l'au-delà, ou bien le paradis ici, et la prison dans l'au-delà. Et la prison de l'au-delà, vous savez, c'est l'enfer, a'oudou billah. C'est l'enfer, a'oudou billah. Ça me rappelle une fois que j'ai lu comme ça dans un livre, une fois que Ibn Hajr al-Asqalani rahimahullah, celui qui a écrit Fath al-Bari. C'était un juge, en son époque, un juge très connu. Et il avait l'habitude, quand il sortait pour aller juger entre les gens, il s'habillait d'une façon impeccable, mashallah. Des vêtements propres, des vêtements blancs, des vêtements, yani, immaculés, comme on dit. Un jour, il a rencontré un juif dans le chemin. Le juif l'a arrêté. Il lui a dit une seconde, une seconde. Il lui a dit, je vais te prouver que, yani, votre prophète, yani, dit des choses qui ne sont pas vraies. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il dit? Il lui a dit, il a dit, le prophète, votre prophète a dit, le bas monde, c'est une prison pour le croyant. Et le paradis du mécréant. Et toi, c'est le contraire. Tu es habillé, yani, comme les gens du paradis. Et moi, par contre, regarde, je suis un mécréant, regarde comment je suis habillé. Un peu déchiré, etc. Il lui a répondu, rahimallah, il lui a dit, en fait, ce hadith a deux sens. Naam. Le deuxième, je vais te le dire, c'est quoi? Il a dit, le paradis que dans lequel tu me vois maintenant, comparé au paradis qui attend le croyant, c'est comme si j'étais en enfer. Et l'enfer qui attend le mécréant, comparé à l'enfer, à ce qu'il vit maintenant, Là, c'est comme s'il était au paradis. Tellement l'enfer terrible par rapport au kafir. Que ce qu'il attend, yani, que on dirait ici qu'il est au paradis. Il va dire moi la même chose. C'est-à-dire que le paradis qui attend le croyant, comparé à ce que je vis maintenant, et comme tu me vois habillé, mashallah, on dirait que je suis en enfer. Non, il lui a donné une réponse qui l'a rendu bouche bée. Bi idhnillah subhanahu. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit dans le Coran, wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayat law kanu ya'lamun. Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. Dans le sens de n'est qu'amusement et jeu. Et la demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie, s'il savait. La vraie vie, c'est la demeure de l'au-delà. طيب وهن منبه رحمه الله rapporte. Il a dit Malik ibn Dinar رحمه الله demanda à un homme plus savant que lui. Il lui a dit combien dois-je construire? Combien dois-je construire? Il lui répondit ce qui suffira à protéger du soleil et de la pluie. Combien dois-je manger? Réponse un peu plus que la faim et en deçà de la satiété. Combien dois-je rire? Réponse, d'une manière qui donnera de l'éclat à ton visage sans pour autant laisser entendre ta voix. Combien dois-je pleurer? Réponse, ne te lasse pas de pleurer par crainte d'Allah. Combien dois-je cacher de mes œuvres? Réponse, cache au point que les gens pensent que tu n'as jamais accompli de bonnes actions. Combien dois-je afficher de mes œuvres, c'est-à-dire montrer? Réponse, montre ce qui amènera celui qui est attentif à te prendre pour modèle. Non. Et on va cette chose. Wahb ibn Munabbih rahimahullah rapporte. Malik ibn Dinar demanda à un homme plus savant que lui. Combien dois-je construire? Non. Il lui a dit, construis ce qui va te suffire à te protéger du soleil et de la pluie. Non, c'est pas tu construis, yani, et tu vas mettre, yani, tout, yani, dans la construction. Non, mais construis de façon à ce que, yani, construis de façon à ce que tu sois dans le nécessaire. Construis le nécessaire, non, ne rentre pas dans les futilités, dans les futilités. D'ailleurs, le prof dit dans un hadith authentique, il a dit que, alaykoum salam, il a dit que tout ce qu'on fait, si c'est avec la niya pour Allah subhanahu wa ta'ala, on a des récompenses. Il a dit sauf la construction. Subhanallah al-Azim. Il a dit sauf le bina, sauf la construction. Là, le croyant, quand il construit d'une façon modeste. Car quoi? Car il sait que cette construction, il va partir et la laisser. Donc, le croyant construit surtout pour l'au-delà. Il construit sa maison de l'au-delà. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand la personne dit subhanallah, que on lui construit, yani, on lui plante un palmier ou un dattier dans le paradis. Donc le croyant, il pense beaucoup plus à construire son paradis qu'à construire sa maison ici. Qu'à construire sa maison ici. Même si, bien sûr, ce n'est pas interdit de construire la maison. Mais ce qui est interdit, c'est d'aller, il a dit, dans les futilités. Dans les futilités, si vous voyez des gens comment ils et combien qu'ils investissent dans des choses qui, subhanallah l'adhim, la tousminu wa la tourni min joie. Des choses vraiment, vraiment futiles. Des choses vraiment futiles. Voilà le hadith authentique. Inna al-mu'min la yu'jar fi kulli shay'in illa al-bina fi hadha al-turab. Le croyant a des récompenses dans toutes choses, sauf dans la construction, il a dit. Fihad al-Torah, dans cette terre. Naam. Abu Zakaria, le hadith, encore une fois, barakallahu fik. Ensuite, il lui a dit, combien dois-je manger? Combien dois-je manger? Il lui a dit, un peu plus la faim, et en deçà de la satiété. un peu plus que la faim, quand tu manges, pour ne pas rester yani affamé. Non. Mais en descendant de là, ça ne mange pas jusqu'à yani vouloir vomir. Jusqu'à vouloir vomir. Abou Zakaria, est-ce que tu es là? Abou Zakaria, est-ce que tu es là? Alhamdoulilah, j'ai dit, si c'est possible, de remettre le hadith, inshallah. Donc, combien dois-je manger? Un peu plus que la faim. Et ça, de la satiété. Tayeb. C'est pour ça qu'il y a un des salafs, rahimahullah. Une fois, son fils lui a dit, aujourd'hui, j'ai mangé, il y a ni à vouloir, disons, vomir. Son père a dit, écoute, mon fils, si jamais il t'arrive à mourir cette nuit-là, que Bidnillah, je ne ferai pas la prière sur toi. Car, en ce cas, tu as fait. En ce cas, tu t'es suicidé. Manger jusqu'à yani, se faire éclater le ventre, il a dit, moi, je ne fais pas la prière sur toi. El-Mohim. Combien dois-je rire? Ris d'une manière qui donnera l'éclat de ton visage, sans pour autant laisser entendre ta voix. Nam. Qu'on le croyant rit, il rit d'une façon yani, modeste. Ça arrive bien sûr ce qu'on appelle nous le fou rire. Ça lui arrive de temps en temps. Mais le croyant n'est pas connu pour cette chose. N'est pas connu pour quelqu'un qui rit toutes les 2 secondes. Il rit comme sa voix haute. Naam. Celui-là, c'est quelqu'un qui n'est pas encore mûr, qui est toujours futile, qui est toujours enfant. C'est les enfants qui rient beaucoup. Naam. Mais quelqu'un qui a yani alham. Qui a l'âme, comme on dit, l'âme, le chagrin, l'âme de ses péchés dans son cœur, et qui a le chagrin de la peur de l'enfer, etc. Celui-là, il ne rit pas beaucoup. S'il rit, c'est par occasion. Sinon, surtout, qu'est-ce qu'il fait? Il sourit. Surtout, il rit. Plutôt que de rire à voix haute, sauf dans des cas comme ça, comme j'ai dit, yani particulier. El-Mohim, combien dois-je pleurer? Par contre, combien dois-je pleurer? Ne te lasse pas de pleurer par crainte d'Allah. Naam. Par contre, si tu peux ne pas t'arrêter de pleurer et de pleurer matin et soir, fais-le. Si c'est par crainte d'Allah, n'arrête pas de pleurer. C'est authentique que parmi les 7 que Allah Ta'ala va ombrager yom al-qiyamah, quelqu'un qui pleure. Naam. Quelqu'un qui pleure, yani, quand il pense à Allah Subhanahu wa Ta'ala ou à l'au-delà ou bien. À condition qu'il soit seul, pas parmi les gens. Donc, la pleurer par crainte d'Allah, premièrement, ça donne des récompenses et deuxièmement, ça adoucit le cœur. Contrairement à quoi? À rire beaucoup. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, il a dit que rire beaucoup, ça fait durcir le cœur. Mieux encore, il a dit rire beaucoup, ça fait tuer le cœur. Ça le fait mourir. On l'a cité une fois, si vous vous rappelez. Ensuite, il a dit, combien dois-je cacher de mes œuvres. Combien dois-je cacher de mes œuvres? Réponse. Cache au point que les gens pensent que tu n'as jamais accompli de bonnes actions. Mal. Cache au maximum. Même au point que les gens croient que tu ne fais jamais de bonnes actions. Car ils t'ont jamais vu quoi faire de bonnes actions comme ça devant eux. Donc ça, c'est mashallah. C'est le dalil de la sincérité. Tu ne veux pas que les gens voient ce que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala dans les choses surérogatoires. Dans les choses surérogatoires. Quant aux choses obligatoires, on les fait devant les gens. Si c'est le moment de salat al-dhuhr et j'ai des invités, je vais pas dire, je vais pas prier parce qu'ils vont voir ce que je fais. Non, non, frère, je prie pour que eux aussi ils se lèvent pour prier. Mais pour les surérogatoires, je ne suis pas obligé de montrer aux gens ce que je fais. Donc, il lui a dit cache. Au point que si tu peux, que personne ne voit ce que tu fais. Et combien dois-je montrer à la fin? Il a dit, combien dois-je montrer de mes œuvres? Il a dit, montre si ça amène celui qui te voit à te prendre pour modèle. Voilà. Quand tu sais que si tu vas montrer, les gens vont te suivre car ils te prennent comme modèle, alors montre pour que les gens y en fassent comme tu fais, bi'idhnillah ta'ala. Et tu as les mêmes récompenses que bi'idhnillah ta'ala. Tayyib. Al-Fudayl. Al-Fudayl, rahimahullah, a dit, si tu peux ne pas être connu, fais-le. Et tu ne rien à ce qu'on ne te fasse pas des éloges. Ou à ce que tu sois blâmé des gens si tu es loué auprès d'Allah. Il a dit, celui qui aime être mentionné ne sera pas mentionné. Et celui qui l'éprouve le sera. Allahu Akbar. Si tu peux ne pas être connu, fais-le. Et tu ne perds rien, tu n'encours rien à ce qu'on ne te fasse pas tes éloges. Rien. Et tu ne perds rien aussi à ce que tu ne sois pas blâmé des gens. À ce que tu sois blâmé des gens. Si tu es loué auprès d'Allah, tu ne perds rien. Il a dit, celui qui aime être mentionné ne sera pas mentionné. Et celui qui n'aime pas être mentionné le sera. C'est tout à fait le contraire. Je reprends. Ça parle ici de réputation. Le musulman, il vit pour subhanahu wa ta'ala. Il ne vit pas pour la gloire et la non. Quelqu'un, par exemple, qui est acteur ou qui est chanteur ou qui est. Non. Plus il est connu, plus ça lui fait plaisir. Plus il est réputé, plus il a atteint son but. Le croyant, c'est tout à fait le contraire. Non. Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Allah ta'ala me connaît. C'est lui qui m'a créé. Donc, je n'œuvre que pour lui. Je n'ai pas d'autre intention. C'est pour ça que même en islam, les savants disent, quand quelqu'un commence à chercher la science, par exemple à apprendre la science, il ne doit pas mettre dans son but et dans son intention que connu. J'apprends pour devenir savant et pour être connu. Non. Le premier but, j'apprends pourquoi? J'apprends pour afa'al-jahl, pour éloigner l'ignorance de moi. J'apprends car l'apprentissage est une obéissance. C'est même une obligation. J'apprends pour ravir mon Seigneur aussi. Voilà les deux choses pour lesquelles je suis en train d'apprendre. Maintenant, si je deviens réputé et connu après, de par ma science, c'est une grâce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et je ne suis pas en train de la chercher. Et si je ne deviens pas connu, Alhamdulillah. Alhamdulillah, je n'ai pas cherché à être connu. Naam. Donc il a dit, si tu peux ne pas être connu, fais-le. Et tu ne perds rien à ce qu'on ne te fasse pas tes éloges. Naam. Qu'est-ce que tu perds quand les gens ne te font pas des éloges? Ils ne disent pas celui-là, il est machallah, il est connu, etc. Naam. Ou que tu ne sois pas blâmé des gens si tu es loué auprès d'Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, naam, et tu es loué auprès de lui. Il te fait des éloges devant les anges, comme dans le hadith authentique. Il te fait des éloges devant les anges. Alors, quoi ça, qu'est-ce que ça peut me faire que les gens me blâment? Qu'est-ce que ça peut me faire dans ce cas que les gens me blâment? Ensuite, il dit, celui qui aime être mentionné, il ne sera pas mentionné. Celui qui aime comme ça être connu et qu'il soit réputé, bien sûr, il ne le sera pas. Non, il ne le sera pas. Et celui qui ne cherche pas cela, il le sera. Je donne un exemple très simple. Un exemple très simple. Nawawi rahimahullah. Son livre qui s'appelle Riyadus Salihin. Qu'on explique chaque samedi. Autant de Nawawi rahimahullah. Autant de lui. En son temps. Il n'y avait ni télé, ni internet, ni radio, SMS, ni. L'âme. Et regardez son livre Riyadus Salihin. Réputé dans le monde. Il n'y a pas un musulman, à partir de l'âge de 6 ou 7 ans, qui ne connaît pas ce livre. Tu dis Riyad Salihin, il te dit Nawawi. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala comment il a réputé son livre. Et en réputant ce livre, son auteur est devenu aussi réputé, bien sûr. Est-ce que Nawawi, rahimahullah, il a fait des, comment qu'on appelle ça, publicité à la télé, il n'a rien fait de cela. Il n'a pas cherché à être mentionné. Allah ta'ala a voulu qu'il soit réputé. Et il y a des gens qui donnent comme ça de l'argent pour passer à la télé, pour ceci, pour cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala jamais ne propage leur science. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas pour son visage. Non. Regardez ce qu'il y a maintenant dans ce hadith. Inna Allah yubul abda al-taqi al-ghani al-khafi ala Sheikh al-Albani. انظر حديث 1882 في صحيح الجامع صلى الله عليه وسلم أدي dans un حديث authentique il a dit الله تعالى إن الله تعالى جبريل تعالى إن الله تعالى aime le serviteur qui a ces trois attributs. Pieux, contraire de qui? Du pervers. Riche, on va voir que ça veut dire riche. Discret, voilà le témoin du cours. Allah Ta'ala aime celui qui est discret. Riche, que l'islam l'a enrichi. Il n'a pas besoin de chose. Allah Ta'ala l'a enrichi. Riche de cœur, riche d'âme. C'est pas riche d'argent. Car si c'était riche d'argent et de biens, ça veut dire que Allah Ta'ala n'aime pas le pauvre. Or, comme Allah Ta'ala n'aime pas le pauvre, alors qu'il le fait rentrer, Yom al-Qiyamah, 500 ans, au paradis, avant le riche. Vous savez que Allah Ta'ala va faire rentrer les pauvres, Yom al-Qiyamah, au paradis, 500 années avant les riches. Donc c'est une preuve ici que le mot riche, c'est pas... Mais quelqu'un qui est riche en quoi? Riche, yani, riche en son cœur. Riche de cet islam que Allah Ta'ala lui a donné. Riche de la douceur de l'islam. Naam. Donc, Allah Ta'ala aime le serviteur pieux, riche et discret. Et riche, ça me rappelle aussi le hadith qui dit « Laysa minna ». Attendez. « Laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an ».« Laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an ». C'est un hadith authentique. En ce sens, il a dit quoi? Il a dit « Ne fais pas celui qui yataghanna ». Yataghanna, en arabe, ça peut être chantonné. Maudit. Hein? Celui qui ne place pour maudit pas avec le Coran, il ne chantonne pas, seulement comme ça direct. Mais d'autres ont dit non, ça a un deuxième sens. Yataghanna, ça veut dire il devient riche, min al-ghina. Ne fait pas partie de nous celui qui. Le Coran ne l'enrichit pas, ne lui suffit pas. Il va chercher d'autres livres pour chercher le mode de vie. Comment le Coran ne suffit pas? Il n'y a pas le mode de vie nécessaire dans le Coran pour que tu ailles chercher la démocratie ou je ne sais pas où tu vas chercher le mode de vie. Naam. Ja'far rahimahullah rapporte. Entendu? Naam, c'est pour ça qu'on dit makana lillah idama utasal ou makana li ghayrillah inqata wa fasal. C'est connu que les salafs disaient que ce qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala perdure. Et ce qui n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, toujours, yani, il se coupe et yani, s'arrête. Naam. Taïb. Je disais. Je disais. Rahimahullah rapporte. Il a dit. J'ai entendu Ibn Dinar, rahimahullah, dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, lorsque le corps est malade, ni nourriture, ni boisson, ni sommeil, ni repos ne sont d'aucune utilité. Il a dit, il en est de même pour le cœur. Lorsque l'amour se bat monde s'y attache, l'exhortation ne lui est plus d'aucune utilité. Subhanallah al-Azim. Subhanallah. Je relis. J'ai entendu Malik ibn Dinar dire, lorsque le corps est malade, ni nourriture, ni boisson, ni sommeil, ni repos ne sont d'aucune utilité. C'est vrai. Lorsque quelqu'un est malade, on lui ramène tout ce qu'il aime. D'habitude, il ne veut pas manger. Non. Ni boire, ni nier. Il en est de même pour le cœur. L'amour de ce bas monde s'y installe, ou bien s'y attache. Lorsque l'amour de ce bas monde s'installe dans le cœur du... L'exhortation ne lui est plus d'aucune utilité. Allahu Akbar. Non. Vous avez remarqué, il y a des gens, tu lui parles jour et nuit de l'au-delà, de l'islam, du hadith, de ceci, de cela, il n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé. Pourquoi? Son cœur, yani, son cœur a une autre qibla, une autre direction. C'est quoi sa direction? C'est le bas monde. Non. Il ne cherche pas l'au-delà. Donc, l'amour de ce bas monde, c'est son cœur au point de l'aveugler. Il ne voit plus naam, ce qui est important et ce qui a rapport avec l'au-delà. Il voit seulement yani, ce qui rapporte des intérêts dans ce bas monde. Celui-là, l'exhortation, ne lui est plus d'aucune utilité. Parle ou ne parle pas, ça ne va donner aucun résultat bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib, on va citer quelque chose en ce sens ici. Allah ta'ala dit dans le Coran: wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka yabsirun. Subhanallah al-azim. Al-A'raf 198. Regarde, dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, il y a certains gens, si tu les appelles vers le chemin droit, tu les vois, ils te regardent, mais ils ne voient pas. Allahu Akbar. Si tu les appelles vers le droit chemin, ils n'entendent pas. Comment ils n'entendent pas? Ils sont sourds. Si, ils entendent très bien. Ils entendent très bien la musique. Non, mais ils savent, il y a une différence entre tel et tel chanteur, telle et telle chanson, et ceci et cela. Mais ils n'entendent pas la vérité, le haq. Naam. C'est pour ça que tu les vois, qui te regardent, hein? Ils te regardent avec les yeux, mais ils ne voient pas avec leur cœur. Naam. L'essentiel, c'est pas de regarder, voir. Je peux regarder une chose, mais mon cœur n'est pas avec moi. Naam. Je dois regarder, voir. Donc ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne voient pas avec leur cœur. Pourquoi? Leur cœur est installé dans leur cœur. Il les a aveuglés. Et aussi dans ce verset, par exemple. Regardez ce verset. Allah Ta'ala dit: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنْ جِنِّ وَالْإِنْسِ هُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Regardez bien ce verset. Nous avons destiné beaucoup de djinns, d'esprits, pour l'enfer. Pourquoi? Pourquoi je vais les rentrer en enfer? Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux. Même, ils sont plus égarés que les bestiaux. Tels sont les insouciants, les rafiloun. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils vont rentrer en enfer? Car ils ont des cœurs, mais qui ne fonctionnent pas. C'est avec le cœur que tu comprends. Naam, tu entends avec l'oreille, mais tu comprends avec ton cœur. Ceux-là, leurs cœurs sont scellés. Ils ont des yeux, mashallah, de grands yeux, avec des cils longs, des yeux bleus, des yeux ceci. Mais malheureusement, ils ne voient pas. Ils ne voient pas la vérité. S'ils voyaient, naam, ils auraient eu peur de ce qui les attend. Ils se seraient préparés pour ce jour-là, ce jour qui va venir, naam. Mais ceux-là, ils ne voient pas. Ils ne voient que, yani, le bout du nez. Ils voient ce qui est plaisir, plaisir éphémère. Boire, danser, faire assouvir ses passions, et ça s'arrête là, naam. Ils ont des oreilles, naam, mais ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas ce qu'il faut entendre avec les oreilles. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé tes oreilles? Pourquoi? Surtout, surtout, pour que tu entendes la vérité. Tu entends ce qu'a dit le prophète alayhi sallam, ce que t'a dit Allah par le biais de son prophète, pour connaître ton Seigneur qui t'a créé, naam, pour ne pas te rebeller contre ton Seigneur, mais pour lui obéir. Pour cela, il faut entendre ce qu'il t'a dit, lui obéir, naam. Il a dit ceux-là, hein, ceux-là sont comme les bestiaux. Même, ils sont plus égarés que les bestiaux. Car les bestiaux, pourquoi? Les bestiaux sont excusés. Sont excusés. Mais ceux-là, ce sont les insouciants. Nous avons destiné pour eux, naam, l'enfer qui les attend, a'oudou billah. A'oudou billah. Ensuite, Ad-Dahak, Ad-Dahak, rahimahullah, a dit, celui qui possède deux qualités, que celui qui possède deux qualités se réjouisse concernant sa religion et sa vie d'ici-bas. La première, celui qui concernant sa religion regarde vers celui qui lui est supérieur, alors son âme ne cessera d'aspirer à l'obéissance d'Allah. La deuxième, et celui qui concernant sa vie d'ici-bas regarde celui qui est moindre, alors son âme ne s'enorgueillira pas. Naam. Ad-Dahhak rahimahullah dit que celui qui possède deux qualités, alors qu'il se réjouisse concernant sa religion et sa vie d'ici-bas. Concernant sa religion, celui qui
concernant sa religion, regarde vers celui qui lui est supérieur. Alors son âme ne cessera d'aspirer à l'obéissance à Allah. Si tu veux, yani, ta foi monte toujours et ne régresse pas, il faut toujours voir, question d'in, je parle question religion, il faut toujours voir celui qui est meilleur que toi. Comme ça, tu vas toujours sentir quoi? De la faiblesse. Tu vas sentir que tu n'es pas à la hauteur. Donc, tu voudrais concurrencer pour arriver. Ici, les gens font le contraire. Non. Tu lui dis pourquoi tu fais pas ceci, tu fais pas de nafila, pourquoi tu par exemple, tu jeûnes pas ceci, cela. Ah, il te dit quoi? Ceux qui sont en dessous de lui. Il te dit, déjà je prie, c'est déjà quelque chose. Il te dit, tu vois pas que la plupart ne prient pas? Tu crois que la plupart boivent de l'alcool? La plupart font la zina? La plupart volent? La plupart? Il te dit, moi, alhamdoulilah, je prie, et de temps en temps, je vais à la mosquée, alhamdoulilah. C'est une grande chose. C'est pas vrai. Il a regardé en dessous de lui, dans le din, alors qu'il fallait regarder au-dessus de lui, dans le din. Contrairement, dans le bas monde, c'est tout à fait contraire. Il a dit ici, et celui qui concerne ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il regarde vers celui qui est moindre. Alors, ça ne s'enorgueillera pas. Quant à ce bas monde, pas regarder celui qui est plus riche que toi et plus aisé que toi, au contraire, plus démuni que toi. Car si dans ce bas monde tu vas voir celui qui est plus haut que toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir de gros chats dans ton cœur. Tu vas être très déçu. Tu vas dire tout le monde a sauf moi. Regarde ce Richard, Naam, trois étages. Sa maison, trois étages, et moi j'ai un studio, il a trois étages. Tu vas être chagriné, Naam. Tu vas ne pas, en ne pensant qu'à ça, tu vas oublier ton din, Naam. Car c'est au détriment, tu penses maintenant, yani, au détriment de ton au-delà, Naam. Et à chaque fois que tu vois quelqu'un plus haut que toi, tu vas être chagriné. Mais par contre, si tu voyais celui qui était en dessous de toi, qu'est-ce que tu vas sentir? Je suis masha'Allah et je ne savais pas. Je suis masha'Allah. Naam. Car, toi si tu as une voiture, même ancienne, regarde celui qui n'a pas de voiture, qui marche à pied. Et quand tu passes devant lui, naam, tu le trouves devant l'arrêt, sous la pluie. Alors que toi, tu es dans une voiture, masha'Allah, même si la voiture est ancien modèle ou je ne sais pas quoi. En voyant comme ça, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, je suis masha'Allah. Moi, au moins, j'ai une voiture. Lui, il n'en a pas du tout. Moi, au moins, j'ai un studio. Lui, il n'en a pas du tout. Il est chez les voisins. Ou là, il est chez sa famille. Ou là, il a plus là. Moi, ça m'appartient. Donc, il faut voir toujours, naam, ceux qui sont en dessous de toi. Comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas mépriser les grâces d'Allah. Tu ne vas pas mépriser les grâces d'Allah. Si tu vas voir celui qui est plus haut que toi, tu vas mépriser les grâces d'Allah. Tu vas dire, Allah Ta'ala ne m'a rien donné. A'udhu billah. Non. Allah Ta'ala ne m'a rien donné. A'udhu billah. Al-Hassan, rahimahullah, a dit. Ô jeunes, attachez-vous et recherchez l'au-delà. Car nous avons vu beaucoup. Ceux qui recherchaient l'au-delà obtenir également la ici-bas. Par contre, nous n'avons jamais vu quelqu'un rechercher le bas monde et obtenir également l'au-delà. Non, des choses qui devraient s'écrire avec quoi? Adem. Regardez bien. Ô jeunes, hein, attachez-vous et recherchez l'au-delà. Il n'a pas dit aux jeunes, allez danser. Dancing. Profitez, vous êtes jeune. Non. Aux jeunes, attachez-vous et recherchez l'au-delà. Ensuite, écoutez ce qu'il dit. Nous avons vu beaucoup de ceux qui recherchaient l'au-delà obtenir également la vie d'ici-bas.
Jamais nous n'avons vu quelqu'un rechercher ce bas monde et en même temps et également obtenir l'au-delà. Subhanallah l'adhim. Regarde, toi, continuer l'au-delà, naam, de faire des efforts pour l'au-delà, des efforts pour avancer dans le dîn, des efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, et la plupart du temps, il te donne aussi le bas monde, comme récompense. Mon serviteur fait des efforts et su à cause d'arriver, à cause de me ravir. Moi maintenant, je vais le suffire dans le bas monde et lui donner ce qu'il veut. Par contre, il a dit, on n'a jamais vu quelqu'un rechercher ce bas monde et Allah Ta'ala va lui donner en même temps l'au-delà. Par contre, toute personne qui se fixe comme but seulement le bas monde, jamais Allah Ta'ala ne lui donnera l'au-delà. Toujours, il mourira pauvre. Il mourira pauvre en récompense. Quand il subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien. Il y a seulement yani, les milliards qu'il a laissé aux héritiers. Mais là, devant Allah subhanahu wa ta'ala, aucune récompense, pas le temps. Il ne pensait qu'à ce bas monde. Alors que, si tu penses à l'au-delà, Allah ta'ala va te suffire le bas monde. Et il va te le donner, bi'idhnillahi ta'ala. Je vous ai cité une fois un verset. Je vais vous le citer, inshallah ta'ala, maintenant. Donnez-moi une seconde. Je vais vous le citer, inshallah ta'ala. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit une seconde ici. Regardez ce verset une seconde. Qui parle de ce qu'on est en train de parler. Une seconde, tu vois. Regardez ce verset, bi'idhnillahi ta'ala. Regardez ce verset. Regardez ce verset. Wa'amur ahlaka bi-saliha. La nas'aluka rizqan. Nahnu narzuquk. Wal'aqibatu li-taqwa. On est en train de parler de quoi? Que si jamais tu te fixes comme but l'au-delà, que Allah subhanahu wa ta'ala te donne cette dunya, contrairement à ce que si tu te fixes l'au-delà, si tu te fixes le bas monde, il ne te donne pas l'au-delà. Regardez ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala. Ordonne à ta famille la salat et fais-la avec persévérance. Ne demandons point de nourriture. C'est à nous de te nourrir. La bonne fin est réservée à la piété. Vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure? Commande à ta famille la salat. Occupe-toi du din. Famille, occupe-toi du din. Et fais-la avec persévérance en ces moments, etc. Nous ne te demandons point de nourriture. Nous ne te demandons point, quoi, de courir dans ce bas monde. Car, quand tu dis à quelqu'un, occupe-toi de ta famille, de la salat, éduque-les dans le dîn, il va dire, et qui va me nourrir? Je dois aller travailler, je dois courir du matin au soir. Allah Ta'ala te dit, je te suffis la nourriture. Nous ne te demandons point de nourriture. C'est à nous de te nourrir, c'est nous qui nourrissons. Occupe-toi de ta salat, je t'ai dit. Dis à la famille de faire la prière. Occupe-toi du dîn. Occupe-toi de l'au-delà. C'est nous qui te donnons ce bas monde, bi-idhnillahi ta'ala. Tayyib. Saïd, rahimahullah, rapporte. Saïd, rahimahullah, rapporte. Il a dit, je suis passé chez Ata Suleymi, rahimahullah, qui me dit. Il me dit, d'où viens-tu? Je lui ai dit de chez ton frère Al-Hassan, Hassan Basri. Il m'a dit, et qu'a-t-il dit? Il a répondu, il m'a dit, ce bas monde est la monture du croyant vers son Seigneur. Et c'est sur elle que le croyant voyage vers son Seigneur. Alors soyez bons envers vos montures et vous parviendrez à votre Seigneur. Naam. Je répète. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit comme recommandation? Il m'a dit, ce bas monde, c'est la monture du croyant. La monture du croyant vers son Seigneur. Et c'est sur elle que le croyant voyage vers son Seigneur. Alors soyez bons vers vos montures et vous parviendrez à votre Seigneur. Naam. Donc, yani, pour arriver, pour voyager par exemple autrefois, il fallait quoi? Il fallait la monture. La même chose ici dans cette vie, on va faire un voyage. On va aller où? On est de ce monde vers l'au-delà. On va voyager. Nam. Pour voyager, il faut une monture. Maintenant, la monture. Nam. Il faut quoi? Il faut être bien avec elle, yani pour qu'elle puisse te faire arriver à ton but. Maintenant, si tu as une monture, tu lui donnes pas, par exemple, à manger, ou bien tu mets sur elle plus qu'elle ne peut prendre. Tu vois quoi? Tu vas la gâcher. La monture peut tomber malade, peut mourir, peu. Donc, et tu n'arriveras pas à bon port. Donc, ici, il faudrait être bien avec nos montures pour arriver à notre Seigneur. La monture ici, c'est quoi? Notre monture pour l'au-delà. C'est cette vie. Ce bas monde, c'est un pont. C'est un pont qu'on va traverser. Donc, n'oublie pas dans cette vie de ce bas monde, n'oublie pas d'être bien avec ta monture. Comment on sera bien avec notre monture? En faisant ce que Allah Ta'ala t'a dit de faire, en nous éloignant de ce qui nous a yani, interdit. En faisant ainsi, on a bien utilisé notre monture et on va arriver, Allah subhanahu wa ta'ala, ravi de nous. Maintenant, si on utilisait ce bas monde pour faire le contraire, pour faire des interdits et ne pas faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, on aura perdu nos montures, on les aura gâchées. Et on va voir Allah subhanahu wa ta'ala qu'en colère contre nous. Non. Sofiane rahimahullah a dit, attache-toi à la modération dans ta vie. Attache-toi à la modération dans ta vie. Et prends garde de rassembler aux puissants. Attache-toi à ce qui n'est pas luxueux concernant la nourriture, la boisson, les vêtements et les montures. Et que ceux que tu consultes soient ceux qui sont pieux, digne de confiance et craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas, Abu Zakaria, si tu as ça ou tu l'as pas, tu l'as enlevé. Sofiane, ici, rahimahullah, a donné trois recommandations. On va lire, inshallah, la recommandation. Tu l'as pas, ma'alish. On va lire, inshallah ta'ala, les trois recommandations. La première, attache-toi à la modération dans ta vie. Et prends garde de rassembler aux puissants. Toi, tu écris vite, Ibn Muhammad, tu écris vite. Attache-toi à la modération dans ta vie. Attache-toi à la modération dans ta vie. Et prends garde de ressembler aux puissants. Ça, c'est la première recommandation qu'il lui a donnée. Attache-toi à la modération dans cette vie, ou là dans ta vie, naam, et prends garde de ressembler. Donc, dans cette vie, inshallah ta'ala, essaye d'être modeste. Essaye d'être modeste. Ne prends pas comme modèle les puissants. Tu voudrais être le plus fort, le plus riche, le plus ceci, le plus cela. Les puissants ne sont pas tes modèles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été modeste dans toutes choses. Naam. Donc, sois toujours dans le juste milieu. Si tu veux, inshallah ta'ala, arriver à bon port, soit dans le juste milieu. Naam. Ensuite, deuxième recommandation, il a dit, attache-toi à ce qui n'est pas luxueux concernant la nourriture, la boisson, les vêtements et les montures. Je répète, deuxième recommandation, attache-toi à ce qui n'est pas luxueux concernant la nourriture, la boisson, les vêtements. Attache-toi à ce qui n'est pas luxueux concernant la nourriture, la boisson, les vêtements. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi était. Non. Il n'était pas luxueux dans toute chose, ni dans sa nourriture, ni dans sa boisson, ni dans les montures. Monture, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il montait sur un âne. Est-ce que, par exemple, de nos jours, un président de la République va monter sur. Alors que le prophète alayhi salam est mieux que n'un président de la République. Mais il montait sur un âne. Tellement la modestie. Tellement la modestie. Donc, attache-toi à ce qui n'est pas luxueux. Si tu vas t'habituer aux choses, tu ne vas jamais vivre des sermons. Et on a cité la fois passée, il a dit quiconque veut l'au-delà, qu'il délaisse la parure de ce bas monde. Vous rappelez le hadith authentique. Et quiconque aspire à l'au-delà, alors qu'il délaisse la parure de ce bas monde. Il n'a pas dit il délaisse le bas monde. Il délaisse la parure de ce bas monde. Celui qui délaisse le bas monde, c'est un fou. On l'emmène à l'hôpital psychiatrique. Mais celui qui délaisse la parure de ce bas monde, c'est un pieux, c'est un ascète. Attache-toi à ce qui n'est pas luxueux. Concernant la nourriture, la boisson, les vêtements et autre chose. Regardez par exemple, si on prend la nourriture et la boisson, c'est un exemple que je vous donne. Toi, tu es modeste ou là, tu n'es pas riche et l'autre est riche. On va prendre X et Y. X est riche, Y ne l'est pas. Ou bien X aime le luxe, Y ne l'aime pas. X va rentrer le soir, il va rentrer dans un resto, il va manger les meilleures des choses. Les meilleures sortes de viande, les meilleures sortes de poissons. Il va bouillir un peu de riz dans une casserole. Ensuite, il le sèche et il le mange. Ou là, il va manger des lentilles. X a mangé quoi dans le resto? Les meilleurs plats. Et l'autre, ou bien un peu de riz. Le lendemain, X et Y se rencontrent. C'est quoi la différence? Non. Y va dire à X, toi hier tu as mangé ceci, ceci. Qu'est-ce que tu as de mieux que moi? Là c'est passé, c'était hier. Aujourd'hui c'est un nouveau jour. Et encore, qu'est-ce que tu as gagné? Au contraire, peut-être toi en mangeant tout cela, tu as maintenant des problèmes d'estomac. Et moi j'ai mangé un peu de riz, je me suis endormi, mashallah, il n'y a aucun problème. Et la nuit est passée, le jour est passé, et voilà, c'est déjà jour, et comme ça, et demain tu vas dire que X et Y sont morts. Qu'est-ce que tu as gagné en mangeant et gagné le luxe? Non. On s'habille luxueusement, etc. La plupart du temps, il vit pour les gens. Non. Il vit pour les gens, il a peur des gens. Il dit, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ils vont dire comment il s'est habillé comme ça, pourquoi il ne s'est pas habillé comme ça, ils vont rire de moi. Donc, il vit pour les gens. Moi, je ne vis pas pour les gens. Je vis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si en mettant cet habit, je sais qu'Allah ta'ala est ravi de moi, je m'en fous des autres. Je m'en fous des autres. Naam. Tayyib. La deuxième, c'était, regardez, la troisième recommandation a dit, et que ceux que tu consultes soient ceux qui sont pieux, dignes de confiance. Je répète, et que ceux que tu consultes soient ceux qui sont pieux, dignes de confiance, et craignent Allah Azza wa Jal. Abou Zakari, est-ce que tu es là? Alhamdoulilah. Tu consultes, soient ceux qui sont pieux, dignes de confiance, et craignent Allah Azza wa Jal. Ah. Il y a comme une sagesse qui dit. Attendez, comment qu'elle dit? Ou la khaba mnistacha? Non. La khaba mnistacha ou la nadima mnistacha. Ce n'est pas un hadith, hein? C'est une sagesse. Ils disent que celui qui fait la prière de la consultation, jamais, par exemple, il n'est égaré. Ni celui qui demande, yani, l'avis des autres, ni celui qui consulte l'avis des gens. Celui-là, ils disent, il n'est jamais, comme on dit, il ne regrette jamais. Non. C'est pour ça, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit, quand on veut faire quelque chose, on fait ça l'istikhara, et en même temps, s'il y a des gens qui ont rapport avec la chose que je vais faire, qui connaissent bien, il a dit, c'est bien de leur demander leur avis. C'est bien de leur demander leur avis. Mais ici, La recommandation, c'est quoi? Il a dit, et que ceux que tu consultes, yani, soient des gens qui ont des conditions. Je ne vais pas consulter n'importe qui. Qu'ils soient pieux, dignes de confiance, et craignent Allah Azza wa Jal. Car dans tes problèmes, si tu vas consulter n'importe qui, il va te répondre de la façon de lui il voit, d'après comment il conçoit les choses, comment il conçoit la vie. Si c'est quelqu'un, par exemple, un athée, ou alors un pervers, non, est-ce qu'il va me donner, yani, les recommandations qui ravissent Allah subhanahu wa ta'ala? Un athée, un pervers, non, celui-là, yani, il n'a jamais pensé à Allah subhanahu wa ta'ala ni à ses préceptes. Donc, il va, quand je vais le consulter, il va me donner des recommandations, non, qui peut-être à 90%, sont à l'encontre des préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a dit, tu dois consulter des gens qui sont pieux, dignes de confiance et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, toujours quand il te donne une, comment on dit, une recommandation ou un conseil, il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala de te tromper. Tu peux tomber chez un pervers, tu lui demandes yani, recommandation, conseil, il te donne quelque chose de faux. Pourquoi il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala? La perdition. Non? Que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. C'est pour ça que quand je veux consulter quelqu'un, il faut que je choisisse quelqu'un de pieux, de digne de confiance. Et quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Sofiane ibn Uyayna, rahimahullah, a dit. Sofiane ibn Uyayna, rahimahullah, a dit. Ne fait pas partie de l'amour de ce bas monde que d'en chercher ce qui t'est nécessaire. Abu Zakaria a écrit ça, là, je suis sûr que tu ne l'as pas. Ne fais pas partie de l'amour de ce bas monde. Ne fais pas partie de l'amour de ce bas monde que d'en chercher ce qui t'est nécessaire. Octobre. Ne fais pas partie de l'amour de ce bas monde. Ne fais pas partie de l'amour de ce bas monde que d'en chercher ce qui t'est nécessaire. Non. Voilà. Donc, qu'a dit Soufiane ibn Uyayna? Il a dit, ne fais pas partie de l'amour de ce bas monde que d'en chercher ce qui t'est nécessaire. On a vu tout à l'heure que celui qui voulait l'au-delà, alors qu'il fasse de sorte que l'amour de ce bas monde ne s'installe pas dans son cœur. Car ça peut pas marcher les deux à la fois. Ça, si tu veux l'au-delà, fais de sorte que l'amour de ce bas monde sorte de ton cœur. Mais quelqu'un va dire donc, comment je vais vivre dans ce bas monde? Je vais vivre dans une cabane, dans une forêt abandonnée? Ici, on te répond, ça ne fait pas partie de l'amour de ce bas monde si tu cherches ce qui t'est nécessaire. Vous comprenez? Si tu cherches dans ce bas monde des choses qui te sont nécessaires, ça ne se contredit pas avec le fait que tu n'aimes pas ce bas monde. Ça ne se contredit pas. Non. Tu peux détester ce bas monde, mais en même temps chercher ce qu'il y a de nécessaire dans ce bas monde. C'est pour ça, regardez par exemple ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Thalathatun min sa'ada, wa thalathatun min shaqa. Fa min sa'ada, al-mar'atu salihah, taraha fa tu'jibuk, wa taghibu anha fa ta'manu 'ala nafsiha wa malik, wa malik. Wa ad-dabba تكون واطئة فتلحقك بأصحابك والدار تكون واسعة كثيرة حسن. انظر 3056 صحيح الجامع. Regardez ce hadith qui réconforte de dire que yani, les choses nécessaires ne se contredisent pas avec le fait de détester ce bas monde. Regardez ce hadith qui va venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, choses font partie du bonheur. Et trois choses font partie du malheur. Font partie du malheur. La femme pieuse, lorsque tu la vois, elle te plaît. Et si tu es en voyage, elle préserve sa chasteté. Et elle garde. Deuxième, on fait partie du bonheur. La bonne monture qui court vite et te fait rejoindre les compagnons. Troisième, on fait partie du bonheur. La maison espace d'utilitaire. Ensuite, le hadith est long. Ensuite, il a dit, trois choses font partie du malheur. C'était le contraire de... Donc, ce qui nous intéresse ici, pour prouver que il est permis dans ce bas recommande, voire des choses nécessaires. Entre autres, la preuve, il a dit, la femme pieuse, c'est une chose nécessaire pour l'homme dans ce bas monde. La même chose pour la femme. C'est nécessaire pour elle d'avoir un homme pieux. Il a dit, c'est quoi pieuse? Il a dit, si tu l'as, mais si tu t'aimes, elle préserve sa chasteté. Naam. Alhamdoulilah. Ce n'est pas obligé de téléphoner à chaque instant pour savoir où elle est sortie. Peut-être elle est avec Y. Non. Naam. Tu es sûr qu'elle préserve sa chasteté. A'oudou billah. Des gens sont partis, revenus, voyagés, revenus. Ils ont trouvé leur femme avec le voisin. A'oudou billah. Celle-là, non. Elle est masha'Allah. Elle préserve sa chasteté. Et elle dit, il est absent, donc je vais commencer à dépenser. Il ne sait pas ce que je fais. Il est loin. Et elle commence à donner à X, à Y, à acheter n'importe quoi et à, je ne sais pas quoi faire. Deuxièmement, la bonne monture. De nos jours, la bonne monture, c'est quoi? La voiture. Il a dit qu'il court vite. C'est pas dans le sens d'acheter une voiture qui court vite. Mais autrefois, la monture, qu'est-ce qui va se passer? La monture ne court pas. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, yani, tu ne vas pas rejoindre tes amis. Tu ne vas pas rejoindre tes compagnons avec lesquels yani, tu ne vas pas. Yani, pourquoi tu as une monture qui va très lentement? Eux, ils sont... Et toi, tu es derrière. Donc, ça fait partie d'avoir une monture qui va vite, comme ça, pour rattraper les compagnons. Ça fait partie du bonheur d'avoir une voiture. Une voiture qui, yani, tu pourrais, avec ta voiture, aller visiter la famille, aller au travail, aller rendre visite aux malades, aller chez la famille, comme ça. Non. Et ça fait partie du bonheur, la maison spacieuse. Il n'a pas dit la maison exiguë. Une pièce. Une pièce. Et quand j'ai les voisins, ah, pour les voisins, j'ai la famille, j'ai pas où les mettre. Non. J'ai des invités, j'ai pas où les mettre. Une maison spacieuse. Spacieuse, ça veut pas dire. Alors, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que les pièces vides, qui sont vides, il a dit que ce sont des pièces, le shaitan vient s'installer. Non. Mais, yani, spacieux, c'est-à-dire une grande maison, masha'Allah. Une grande maison. Non. Il a dit plein d'utilitaires, plein de choses utiles. Les choses utiles, donc, ce sont des choses nécessaires qui ne se contredisent pas avec le fait que je n'aime pas le bas monde. Est-ce que c'est possible à quelqu'un, par exemple, dans un pays chaud, de vivre, par exemple, d'avoir une maison qui n'a pas un climatiseur? Est-ce que c'est possible, par exemple, d'habiter en Arabie Saoudite ou bien au Koweït ou bien aux Émirats et de vivre sans climatiseur? C'est possible de nos jours? Même peut-être en France. Avec ce qu'on raconte de... Je sais pas comment ça s'appelle, le truc là... Ou le trou qu'il y a dans le ciel. Je sais pas comment il s'appelle, quoi. Le trou qu'il y a dans le ciel. Maintenant, on dit que plus maintenant les années vont venir, plus il va y avoir beaucoup plus de fois. L'ozone, voilà. Avec le trou dans la couche d'ozone. Maintenant, toutes les années qui vont venir, plus comme autrefois. Et subhanallah al-adhim, je l'ai remarqué chez nous en Algérie. En Algérie, jamais on avait besoin de climatiseur. Et encore moins de climatiseur dans la voiture. Encore moins. Non, dès que tu ouvres la vitre, mashallah, c'est la brise. Il fait froid. Maintenant, en été, en Algérie, si tu n'as pas le climatiseur dans la voiture, c'est vraiment difficile. Alors, qu'en est-il dans le Sahara, qu'en est-il dans les pays du Golfe? Donc, conclusion, les choses nécessaires dans la maison, comme le frigo, comme climatiseur, comme les trucs là nécessaires, ne se contredisent pas avec le fait que je hais, yani, la parure de ce bas monde. Naam. Bilal ibn Sa'd rahimallah a dit, suffit qu'on péché, qu'Allah Ta'ala nous encourage à nous écarter de ce bas monde et qu'ensuite nous le désirions. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Par Allah, il a juré, suffit qu'on péché, que Allah Subhanahu wa Ta'ala nous encourage bas monde et qu'ensuite nous, nous courions derrière lui et nous le désirions. Il a dit, ça suffit comme péché. Allah subhanahu wa ta'ala t'encourage dans beaucoup de versets de t'écarter ce bas monde, de ne pas t'y attacher. Et toi, et moi bien sûr, on court derrière le bas monde car on le désire. Notre cœur s'y installe. Il a dit, ça suffit, bi'idnillahi ta'ala comme péché. Allah ta'ala, si je cite un ou deux versets seulement, a dit, en parlant du bas monde, ya ayyuhan inna wa'adallahi haqq. فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ وَلَا يَغْرُرُ. Ô homme, place d'Allah, et vérifiez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le témoin, ô homme, la promesse d'Allah, c'est une vérité. Attention, ne laissez pas le bas monde vous tromper. Naam, on ne doit pas être trompé par le bas monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, je vous l'ai cité la fois passée, Dunya mal'ouna, mal'ounun ma fiha, illa dhikrallah wa mawala wa muta'alliman. Qala Sheikh al-Albani Hassan, hadith min al-Jami'. Le prophète a dit, certes ce bas monde est maudit, ainsi que tout ce qu'il contient. Tout ce qu'il contient est maudit. Sauf, dhikr Allah, la mention d'Allah, et ce qui suit la mention d'Allah comme pratique religieuse. Et sauf, un savant et un étudiant. Naam. Ce bas monde est maudit avec tout ce qu'il contient. Sauf ce qui a un rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et, le savant, car il est toujours en contact avec les préceptes d'Allah, et il est toujours en train de propager et d'illuminer les gens, de propager les préceptes et d'illuminer les gens, et l'étudiant. Celui qui demande la science, naam, il sort, il est excepté de du maudissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Pourquoi? Car celui-là, il est en train de se rapprocher de son Seigneur Azzawajal. Hamad ibn Waqid, rahmallah, a dit, j'ai entendu Malik ibn Dinar dire, les gens disent de moi que je suis un ascète. Mais le véritable ascète, c'est Omar ibn al-Abdelaziz, rahimahullah, auquel ce bas monde s'est offert, mais qui l'a délaissé. Allah rapporte, il a dit, j'ai entendu Malik ibn Dinar dire, les gens disent de moi que je suis un ascète. Mais le véritable ascète, c'est Omar ibn Abdel Aziz, auquel ce bas monde s'est offert, mais qu'il a délaissé. En fait, le vrai ascète, c'est qui? C'est pas celui qui n'a rien, mais celui qui a tout, mais le délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Celui qui ne peut pas dire pourquoi. Car toi, tu délaisses, car tu n'as rien. Mais attends, on va te tester. On va t'enrichir, et on va voir si tu peux devenir ascète. Par contre, Omar ibn al-Aziz, ibn Abdelaziz, rahimahullah, le monde s'est offert à lui. Naam. Mais il l'a délaissé pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà le vrai ascète. C'est là que on peut dire d'une personne qu'elle est ascète. Si elle a le bas monde et elle le délaisse. Et non pas quand elle est pauvre. Et non pauvre. Maslama ibn Abdel Malik rapporte, il a dit, je suis entré chez Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu et sa tunique était sale. Alors j'ai dit qui était la sœur de Maslama. Il lui a dit, lave-la. Et elle répondit, nous le ferons, Inch'Allah, nous le ferons. Il a dit, puis je suis revenu, la tunique était toujours dans le même état. Je lui fis la remarque et elle dit, par Allah, il n'a pas d'autre tunique que celle-ci. Naam. Maslama ibn Abdel Malik rapporte, il a dit, je suis rentré chez Omar et sa tunique était sale. Omar c'était, je pense pas que c'est Omar ibn Khattab, c'est Ibn Abdel Aziz. Naam. Et sa tunique était sale. Il dit alors à son épouse, qui était la sœur de Maslama, il lui a dit, lave-la. Inch'Allah ta'ala, nous allons le faire. Puis je suis revenu et la tunique était toujours dans le même état. Je lui fis la remarque et elle dit, par Allah, il n'a d'autre tunique que celle-ci. Par Allah, c'est tout ce qu'il a. Si je lui enlève sa tunique pour la laver, il va rester nu. C'est pas possible. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il a. C'est pour ça que tu la vois sale. Malik ibn Dinar, rahimahullah, rapporte. Il dit, il y a des années où je ne mange pas de viande, si ce n'est de ma bête, le jour du sacrifice. Il y a des années que je ne, il y a des années où je ne mange pas de viande, si ce n'est de ma bête, le jour du sacrifice. Parmi les salafs, il y avait des gens qui ils ne mangent que le jour du sacrifice. Non. Là, j'ai une question. Est-ce que Malik ibn Dinar, qui restait des années sans manger de viande, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Il est mort. Est-ce qu'il est tombé malade? Il n'est pas tombé malade. Non. Il ne mangeait que le jour du sacrifice. C'était l'occasion. Sinon, il n'y avait pas les moyens. Il n'y avait pas les moyens. Ou s'il y en avait, peut-être qu'il voulait devenir ascète. Mais, yani, ce que je veux dire, quelqu'un qui ne mange pas de viande ou ne mange pas souvent ne meurt pas. Ne meurt pas, naam. Soufiane dit, bon, on va sauter ça. On va terminer le temps par celle-là. Inch'Allah. Abu Zakaria, tu as volé, hein? Hamad ibn Ziyad rapporte. Il a dit, un homme demanda à Muhammad ibn Wasi'a. Un homme demanda à Muhammad ibn Wasi'a. Il lui demanda, adresse-moi une recommandation. Il lui dit, écoutez cette recommandation. Si quelqu'un va demander, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas demander un conseil à quelqu'un qui n'est pas pieux, qui ne craint pas Allah, qui est pervers. Supposons, je vais demander à un pervers de me donner une recommandation. Qu'est-ce qu'il va me dire? Écoute, je te conseille, Naam, de voir comment essayer de remplir tes poches au maximum. La vie de nos jours est difficile et ça ne pardonne pas. Naam, si tu peux, yani, comment voir comment t'enrichir par tous les moyens. Il ne faut pas dire c'est haram, hein? Il ne faut pas suivre... Les barbus qui disent c'est haram. Non, il n'y a pas de haram de nos jours. L'essentiel, c'est d'avoir les poches pleines. Comme ça, tu peux profiter, toi et ta famille. Rien ne vous manque. Non. Voilà, peut-être comme ça, ils vont me donner yani, comme recommandation. Non. Regardez le self, qu'est-ce qu'il va lui donner comme recommandation. Il a dit, je te recommande d'être un roi en ce bas monde et dans l'au-delà. Je te recommande. Non, je te donne comme conseil d'essayer d'être un roi, de devenir un roi dans ce bas monde et dans le delà. Il a dit comment? Que dois-je faire? Écoutez la réponse. Écarte-toi de ce bas monde. Écarte-toi de ce bas monde. Subhanallah l'adim. Si tu veux devenir roi, un roi, un vrai roi, dans ce bas monde et dans l'au-delà, dans les deux, hein? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écarte-toi seulement de ce bas monde. En oubliant ce bas monde. En ne pas le. Quand je ne le laisse pas rentrer dans mon cœur pour s'y installer, qu'est-ce qui va arriver? Je vais devenir un roi. Je vais vivre comme un roi. Un roi dans ce bas monde et un roi dans l'au-delà. Dans l'au-delà, l'au-delà, car, comme j'ai cité le hadith, le prophète Al-Islam a dit, quiconque veut l'au-delà, qu'il délaisse la parure de ce bas monde. Est-ce que vous m'entendez? Fawzi, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Quiconque veut vivre comme un roi dans ce bas monde et dans l'au-delà, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il s'écarte de ce bas monde. Non. Si tu t'écartes pas de ce bas monde et tu t'impliques à fond, qu'est-ce qui va se passer? tu vas devenir l'esclave de ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Qatifa, Ta'isa Abdul Khamila. Et comme ça, il a dit malheureux est, il a dit malheureux est l'esclave du dinar, le serviteur du dinar, le serviteur du dirham de nos jours, l'esclave de l'euro, l'esclave du dollar. Non, il a dit malheureux il est. Il est devenu un esclave. C'est comme s'il adorait. Il adore l'argent. Il adore l'euro. Non, il adore le bas monde. Si tu veux, donc celui-là, c'est quoi? C'est un esclave. Maintenant, moi, je t'apprends comment devenir roi, pas esclave. Affranchis-toi. Affranchis-toi. Non, écarte-toi de ce bas monde. Ne prends de ce bas monde que ce qui est nécessaire pour que tu vives. Mais plutôt, construis ton au-delà. Comme dans le hadith que j'ai cité tout à l'heure. Quiconque dit Subhanallah ou Bihamdi ou bien Subhanallah, on lui plante un palmier dans le paradis. Et dans le hadith authentique que je vois ici, Cheikh Al-Albani a dit authentique ou bien Hassan. Man kant l'akhirah hamma, quiconque dans l'au-delà, c'est son chagrin. Quiconque qui ne pense qu'à l'au-delà. L'au-delà. Ja'ala Allah ghina fi qalbih. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va mettre sa richesse dans son cœur. Naam. Wa jama'a lahu shamlah. Et il va lui grouper yani sa famille. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Et cette dunya, ce bas monde va lui venir yani de force, même si lui ne veut pas, le bas monde ne veut pas. Naam. وَمَنْ كَانَتْ دُنْيَا هَمَّهُ. Et quiconque ses soucis, c'est ce bas monde, جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala va mettre la pauvreté entre ses yeux. وَفَرَّقَ عَلِي شَمْلَهُ. Et va lui disperser sa famille. وَلَمْ يَأْتِهِمْ مِنْ دُنْيَا إِلَّا مَا قُدِرَ لَهُ. Et ne va lui venir de cette dunya que ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a écrit. بَرَكَ اللَّهُ فِيكَ ابْنُ الْقَيِّمِ pour ce hadith. Si je l'avais en mémoire, je l'aurais écrit yani, avant le cours. طيب ابن مسلم ابن الجزائري traduit inshallah ta'ala, écrit, il est très important le hadith, écrit. Quiconque fait de ce bas monde ses soucis, quiconque fait de ce bas monde ses principaux soucis. Et ce hadith, si quelqu'un, vous tous, si vous pouvez l'écrire, tellement il est important, subhanallah l'adhim, si on pouvait l'écrire en or comme j'ai dit, subhanallah l'adhim, et le mettre comme ça, toujours entre nos yeux, pour ne pas l'oublier. Jazayri, tu écris, Inch'Allah, quiconque fait de ce bas monde ses principaux soucis, est-ce que tu es là, Abou Zakari, est-ce que tu es là? Naam, tu m'as entendu? J'ai dit, si tu pouvais écrire, je te dis, et toi tu écris. Tayyib. Malish. Ah, raktiktib. Donc, tu attends qu'on termine le hadith. Je voudrais que tu écrives à chaque fois. Voilà, quiconque fait de ce bas monde son principal souci. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui va lui arriver? Ja'ala Allah ghina fi qalbih. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va mettre sa richesse dans son cœur. Ibn al-Qayyim réaffiche le hadith, barakallahu fik, pour qu'il ne monte pas. Jazakallahu khairan. Quiconque fait de ce bas monde son principal souci, Allah ta'ala va faire, yani, va mettre sa richesse dans son cœur. Il va voir qu'il est le plus riche. Pourquoi? Pour avoir mis ce bas monde, yani, son principal souci. طيب. Abu Zakaria, où est-ce que tu es? Quiconque fait ce bas monde son principal souci, Allah va mettre sa richesse dans son cœur. Première récompense, il va mettre la richesse dans son cœur. Deuxième récompense, wa jama'a Allahu shamlahu. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui regrouper sa famille. Et Allah ta'ala va lui regrouper sa famille. Voilà, quelqu'un va dire comment? Qu'est-ce que ça a rapport avec regrouper la famille avec je fais de ce bas monde mon principal souci? Son principal souci. Asma, Asma. On s'est trompé, personne n'a remarqué. Allahu Akbar. C'est le contraire, c'est le contraire. Quiconque fait de l'au-delà son principal souci. C'est pas le bas monde, hein, cher. Naam. Naam. Quiconque fait de l'au-delà son principal souci. Alors Allah va mettre sa richesse dans son cœur et va lui regrouper sa famille. Quelqu'un va dire comment, pourquoi, pourquoi quand je mets l'au-delà dans mon cœur et c'est mon principal souci, Allah va mettre la richesse dans mon cœur. Bon, ça c'est clair. Mais comment il va regrouper ma famille? On va dire maintenant que tu as mis ton principal souci l'au-delà, tu ne vas plus courir comme un chien. Pardon l'expression. On ne va plus courir comme un chien derrière, yani derrière la proie. Donc, maintenant, quand je ne cours pas, je suis avec ma famille, je sais ce qui se passe. Allah Ta'ala va me regrouper ma famille. Mais maintenant, si je sors à 5h du matin et je viens à 22h, est-ce que je vais savoir où est mon épouse, où est-ce qu'elle est sortie pendant la journée, où est-ce qu'elle est allée, où est ma fille, où est mon fils? Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je cours derrière la vie du matin au soir, derrière le bas monde. Et des fois, je suis en voyage. 4, 5, et je ne sais pas ce qui se passe chez moi. Si les enfants prient ou ne prient pas, s'ils vont, je ne sais pas, à la mosquée ou au bar, je ne sais pas. Et ma famille est dispersée. Naam. Mais quiconque fait de l'au-delà son principal souci, Allah va mettre sa richesse dans son cœur. Naam, il va sentir qu'il est plus riche, même s'il est pauvre. Il va lui regrouper la famille. Et troisièmement, Naam, il dit wa atatuhu ad-dunya wa hiya ragima. Allah Ta'ala va lui ramener, ramener la dunya entre ses pieds, entre ses mains. Il va la lui faire incliner. Il va lui faire prosterner la dunya devant lui. Naam, écrit, il va lui faire la dunya. Il va lui ramener la dunya entre ses mains. Naam, c'est comme on a dit tout à l'heure. Vous vous rappelez? Si tu mets l'au-delà dans ton cœur, la dunya va venir incliner entre tes mains. Subhanallah al-Azim, une récompense d'Allah. Mais le contraire n'existe pas. Si tu mets la dunya dans ton cœur, il n'y a pas d'au-delà. Tayyib. Et maintenant, écris maintenant, et quiconque fait son principal souci, la dunya. Et quiconque fait de la dunya son principal souci. On va voir... Et le châtiment, qu'est-ce qui va se passer? Et quiconque fait de la dunya son principal souci. Écris cette phrase. Et quiconque fait de la dunya son principal souci. Ahsant. Ja'alallah faqrahu bayna ayna. Allah va mettre sa pauvreté entre ses yeux. Premier châtiment. Allah va mettre sa pauvreté entre ses yeux. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je connais des gens, je ne vais pas citer c'est qui, des couples. Lui, il travaille et sa femme travaille. Jamais ils te disent, on est bien. Il travaille, lui, mashallah, une paye, mashallah. Et elle, enseignante, la paye, mashallah. Alors, ça va, ça ça va pas. On ne peut pas payer l'électricité, on ne peut pas payer ceci, cela. On ne se permet pas ceci, cela. Subhanallah, l'azim. Et qu'est-ce que tu fais des gens qui ne travaillent pas? Qu'est-ce que tu fais des gens qui ne travaillent pas et qui ne disent jamais ça? Qui se sentent, mashallah. Donc toi, tu as fait de la dunya ton principal souci. Alors Allah Ta'ala a mis la pauvreté entre tes yeux. Tu sens que tu es toujours pauvre alors que tu es riche si tu le savais. Naam. Premier châtiment. Deuxième. Wa farraqa ali shamla. Et lui disperse sa famille. Allahu Akbar. Et lui disperse sa famille. Tu veux courir après la dunya du matin au soir. Je vais te montrer ta famille, qu'est-ce qui va lui arriver. Allah Ta'ala va lui disperser sa famille. Il lui disperse sa famille. A'udhu billah. C'est peut-être l'un des grands châtiments. Naam. D'avoir permis à la dunya de s'installer dans ton cœur. Regarde maintenant comment tu vis. Naam. Tu ne sais rien à propos de ce qui se passe à propos de ta famille. Encore moins, yani, tu t'occupes d'eux et tu les éduques. Encore moins. Naam. Troisième châtiment, et tu n'as que ce que Allah Ta'ala t'a écrit. Tu n'auras de cette dunya que ce que Allah Ta'ala t'a écrit. Donc en fait, tu t'es fatigué pour rien. Naam. Tu t'es fatigué pour rien, tu as couru pour rien, tu as dispersé ta famille et tu n'auras de cette dunya que ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit. Hasbunallah wa ni'mal wakil, de ce que fait le shaitan. Naam. Comment qu'il nous embellit la dunya pour nous faire courir du matin au soir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, naam. De cette dunya qui veut quoi? Qui veut nous tromper. Et nous faire oublier notre au-delà. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais prier à la maison parce qu'il pleut. Donc, on va se rencontrer dans 10 minutes, un quart d'heure. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfaddal inshallah ta'ala pour la première question. Tfaddal inshallah ta'ala pour la première question.
Bismillah wa salat wa salam ala rasulillah. Abad. Je tiens juste à dire que je n'ai pas répondu aux personnes, mais j'ai bien reçu toutes les questions de ceux dont j'ai baissé les mains. Inch'Allah. Et je passe à la première question en commençant par une question du cours, cher. Question d'une sœur qui demande. Fidakumullah, cher. J'ai lu il y a longtemps une parole d'un des salafs concernant le fait de construire des demeures dans cette dunya. Il me semble que cette parole disait, dans le sens que construire une demeure dans cette dunya est semblable à construire sur une vague ou quelque chose de semblable. Wallahu a'lam. Je ne trouve plus cette parole. Est-ce que vous la connaissez? Barakallahu fikum. Et j'en profite, cher, pour vous dire de m'ouvrir votre PV pour que je vous envoie les questions, inshallah. Je vous ouvre le mien, plutôt écrivez un, inshallah.
Wa alaykoum salam, rahmatullah. Je ne me rappelle pas. Non. Je ne me rappelle pas de la parole de ce savant. Mais c'est comme il a dit. C'est comme il a dit. Yani, quand tu construis une demeure dans cette dunya, non, il faut mettre dans ta tête que c'est quelque chose de. Comment qu'on dit le mot, c'est quelque chose de. Momentané. C'est pour ça qu'il ne faut pas y accorder beaucoup d'importance. Car tu dois la laisser partir. Éphémère, nam, fugace. Quelqu'un qui construit quelque chose sur une vague. Est-ce que ça va durer? La même chose. Et le croyant, c'est comme ça qu'il doit. C'est comme ça son comportement envers cette dunya. Il ne lui fait pas confiance. Il se dit toujours, d'un moment à l'autre, je peux partir et la laisser. Donc pourquoi m'investir à fond dans quelque chose que je vais délaisser tôt ou tard. Quant à la parole du savant exactement, je m'en rappelle pas. Naam, tfadlal.
Donc la question d'une sœur qui vous dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bismillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Ma question concerne le sitar. Je suis une sœur, Alhamdulillah, qui fit sabilillah porte le sitar. Seulement, je reçois énormément de conseils stipulant de l'enlever car nous sommes en France. De plus, je vous ai entendu donner comme mise en garde l'ostentation et la renommée, qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Vous avez donc donné cette mise en garde à un frère se laissant pousser les cheveux pour se rapprocher de la ressemblance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui me remet beaucoup en question, malgré que j'invoque contre cette turpitude. Car sachez que je suis la seule dans ma ville et ses alentours à porter sitar, wallahu a'lam. J'endure toutes les critiques et pressions quand je fais mes cours seulement. Mais alhamdoulillah, je le vis comme une épreuve d'Allah azza wa jal. C'est même une manière de me rapprocher d'Allah ta'ala, car le stress que j'éprouve me permet de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, car dans ma tête, ma bouche et mon cœur, il n'y a que lui, latif ta'ala, dès que je sors de chez moi par les du'as, le dhikr, le Qur'an que je révise, walhamdoulillah. Maintenant, j'aimerais des conseils de votre part, bi'idhnillah ta'ala, sur le port du sitar, aussi m'est-il permis de porter un masque chirurgical, donc les masques antibactériens comme les infirmiers et autres dans les hôpitaux, cher, qui cache le dessous des yeux, donc des yeux jusqu'au menton, à la place du sitar, quand je vais faire mes courses, afin de ne pas subir la pression des responsables du magasin qui me menacent d'appeler la police et me demandent de quitter les lieux. Jazakumullahu khaira, pardon pour l'étalage. Aussi, cheikh, êtes-vous d'accord pour qu'on diffuse vos cours dans d'autres salons? Barakallahu fikum, cheikh.
Alaykoum salam, rahmatullah. Abou Zakaria, est-ce que tu m'entends? Alhamdoulilah. Je vois Abou Zakaria. La question commence ainsi. Commence ainsi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد كالله عز وجل نو باردون اتسيتيرا توا بيان سور توا بور نو با يعني بور غاني ان بو طون تو ا سوتي ان بو اي تو ا سوتي كيلك شوز ديسونسيل تو ا سوتي كون لا سورا دي والصلاة والسلام على سيدنا محمد تو ا سوتي سيدنا تو ا دي والصلاة والسلام على محمد. N'est-ce pas? Je sais que c'est pour gagner le temps. Mais en fait, si tu avais remarqué une chose, si tu avais lu « Wasidna » c'est mieux en ce sens que, c'est pour corriger. Pour dire à cette sœur que, voilà, pour dire à cette sœur que, quand on veut faire la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on ne dit pas « Sayyidna ». Même si lui, yani c'est « Sayyiduna ». Vous comprenez? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est « Sayyiduna ». Mais malgré cela, il n'y a pas dans la sunna. Quand tu dis Allahumma salli wa sallam ala rasulillah, de dire Allahumma salli wa sallam ala sayyidina rasulillah. Donc c'est une remarque, yani, on n'est pas comme les gens qui, tu leur dis comme ça, ils vont dire donc toi tu es contre le prophète, donc toi tu n'aimes pas le prophète, donc toi tu dis qu'il n'est pas sayyidina. Non, au contraire, moi je dis qu'il est sayyiduna, c'est notre maître, et tellement il est sayyiduna, tellement il est notre maître, que je lui obéis. Je lui obéis au point où, puisque lui, il n'a jamais dit de lui, Sayyiduna, comme ça dans la formule, moi aussi je ne la dis pas. Et toi, c'est pas la sœur, c'est-à-dire toi qui essaie de me contrer, qui dit par exemple, tu es contre le prophète, je te dis, c'est toi qui es contre le prophète. Non, c'est toi qui, ça me prétend l'aimer plus que les autres, tu ajoutes des choses. Vous avez compris? Donc je dis à la sœur, Inch'Allah Ta'ala, dans la formule, il n'y a pas Sayyiduna. Ma'alish. Ensuite, non, je dis que cette sœur est dans un djihad. Non, cette sœur et tous ceux qui sont dans son cas sont dans un djihad. Vous êtes en train de faire le djihad. Non, vous n'avez pas, yani, c'est pas obligatoire pour vous de faire le djihad avec les armes. Vous le faites maintenant avec les tenues, etc. Et bien sûr, on doit accepter ce qui nous arrive, ce que disent les gens, etc., etc. Ça rentre tout ça dans le djihad. Et elle-même, elle raconte qu'elle dit que, alhamdoulilah, c'est aussi une façon, yani, de fortifier sa foi, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Reste maintenant, si vraiment elle dit à la fin, si elle dit que, est-ce qu'elle pourrait mettre, ce qu'elle dit là, une seconde, un masque chirurgical ou quelque chose comme ça, là, je lui dis, si elle met ça, dans la daroura, pour ne pas être agressé, pour ne pas être frappé, pour ne pas appeler la police, et que en même temps ça cache, yani ça cache, comme cache le sitar. Dans ce cas, yani inchallah, si elle est dans la daroura, elle est dans un pays de kofar, etc., je pense, Allah Ta'ala alam, qu'elle a yani une quoi, qu'elle a une permission. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Naam. Tfadhal.
Barakallahu fikoum, cheikh. Question suivante d'une sœur qui dit ma question.
Non, ma foune, car j'avais pris le micro et toi aussi tu l'as pris en même temps. Non, pour ne pas revenir sur la question, j'ai dit et pour les cours, la diffusion des cours, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de problème. Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de problème pour celui qui veut diffuser Fisabillah. Fisabillah, pas en contrepartie, yani de choses matérielles. Ensuite, dis-moi, Abou Zakaria, est-ce qu'il n'y a pas de coupure dans le son? Est-ce qu'il n'y a pas de coupure? Tfadal.
Alhamdoulilah, cheikh, le son, Jayd Jiddan, masha'Allah. Barakallahu fikoum, cheikh. Donc, question de la sœur qui dit Ma question est, comment sortir de la dunya de nos cœurs? Parfois, je peux avoir j'ai pas compris le terme, si c'est ouswas ou là, des excès, comme acheter des vêtements alors que je pense avoir ce qui me suffit. Fait-il partie d'aimer les parures de ce bas monde, même pour plaire à son mari? Comment sortir la dunya de nos cœurs? Est-ce qu'on doit dire aussi, Innal aish aish, Innal aish aish al-akhirah? À chaque fois qu'on voit quelque chose qui nous plaît de ce bas monde, barakallahu fikum cheikh, qu'Allah vous récompense ainsi que les admins et ceux qui vous écoutent.
Je dis naam, comme salam, quand la personne a ce qui lui suffit comme vêtement, c'est pas la peine, inchallah ta'ala, d'acheter d'autres. Naam, j'ai comme vêtement qui me suffit, naam, pourquoi yani, maintenant aller yani, m'approfondir dans des choses qui sont pas yani, qui sont pas obligatoires. Reste pour le mari, ça ne fait rien. Si la femme achète des choses qui, elle sait qu'en mettant ces choses devant son mari, elle va lui plaire, dans ce cas, ça ne fait rien. Car c'est pour attirer l'amour de son mari. Et ça, c'est une chose demandée même dans la religion. Naam. Reste pour la phrase Allahumma la aisha illa aisha al-akhira. Cette phrase l'a dite le prophète Aslam. Mais on ne la dit pas chaque fois qu'une chose nous plaît dans le monde. Non, on ne la dit pas à chaque fois. Mais on la dit comme ça de temps en temps quand on la donne le cœur ou là sur les lèvres. Sinon, il ne faut pas la dire à chaque fois comme ça. Non, car les salafs ne le disaient pas à chaque fois comme ça. Non. Mais si on le dit comme ça de temps en temps, ou bien on pense à ça dans le cœur, c'est bien. Non. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante. Question d'un frère ou d'une sœur, Allah Alim, qui dit qu'Allah vous préserve, Shir, ainsi que les admins et tous ceux qui suivent vos cours. Ma question est, j'ai accompli le tawaf lors de la Umrah, alors que j'étais indisposé et que je le savais. Existe-t-il une expiation pour cette faute? Hafidhakum Allah jami'an wa barakallahu fikum.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, comme vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, quand elle était indisposée dans le Hajj, il lui a dit tout ce que fait le Hajj, sauf que ne fait pas le tawaf. Les savants ont dit, quand une femme est par exemple au Hajj, et que yani, c'est le moment de faire le tawaf, etc., et qu'elle est posée, mais qu'elle n'a pas d'autre solution. C'est-à-dire, par exemple, c'est demain qu'elle doit prendre l'avion, elle est indisposée. Maintenant, si elle ne fait pas le tawaf, et elle va prendre l'avion demain, ils ont dit, ça veut dire qu'elle n'a pas terminé son hajj. Ça veut dire qu'en allant chez elle, jamais, yani, se rocher. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours en hajj, jusqu'à ce qu'elle revienne l'année prochaine, ou bien dans 3, 4 ou 10 ans, pour terminer son hajj, pour que son mari puisse l'approcher. Donc, imaginez qu'une femme fasse comme ça et qu'elle aille chez elle en France et elle reste 3-4 années sans que son mari l'a. Donc dans ce cas, ils ont dit, c'est permis. C'est Ibn Taymiyyah qui l'a dit, Ibn al-Qayyim, Ibn al-Baz, Sheikh Ibn al-Taymiyyah. Ils ont dit, dans ce cas, c'est permis qu'elle fasse le tawaf en état d'indisposition ou la d'indisponibilité, mais ça rentre dans la daroura. Car elle n'a que l'une des solutions, ou bien faire le tawaf en monstrueux, c'est pas de sa faute, ou bien aller dans son pays et rester comme ça des années sans en état de sacralisation et sans permettre à son mari de la toucher. Vous savez que l'islam voit toujours le moindre mal. Et le moindre mal, c'est de faire le tawaf indisposé. Donc la sœur ici n'a pas précisé si elle l'a fait dans un état, yani de, comme je viens de le dire, de daroura, ou bien elle l'a fait seulement comme ça. Si elle l'a fait comme ça, seulement comme ça, je pense, Wallahu ta'ala, qu'il y a une expiation, mais je ne suis pas sûr de ça. Est-ce que c'est seulement la tauba, ou bien, par exemple, elle doit, yani, etc. Je lui rends, Inch'Allah ta'ala, la réponse samedi, bi'idhnillahi ta'ala. N'oublie pas, Abu Zakaria, de noter, Inch'Allah ta'ala, yani, la question. Fadal.
Barakallahu fikoum, cher, question suivante d'une sœur qui dit Chère qu'Allah vous préserve ainsi que les admins. Je voulais savoir, est-ce que le fait que j'aime souvent m'acheter des habits ou du maquillage, etc., dans le but uniquement de m'embellir pour mon mari, fait partie du fait de s'acheter de s'attacher à la dunya? Donc, Cheikh a déjà répondu à celle-ci, donc je vais passer à une autre question, Inch'Allah. Désolé, je découvre les questions en même temps que vous, Cheikh, comme je suis tout seul ce soir. La question suivante d'un frère qui dit, est-ce qu'avoir beaucoup de qamis et de parfums va contre l'ascétisme? Et comment se comporter avec les personnes âgées? Ah, bon, je ne peux prendre qu'une seule question. Barakallahu fikari.
Donc pour la première question, j'ai répondu que quand c'est pour plaire au mari, que ce n'était pas interdit, que c'était même bien, que c'était même bien. Taïeb, pour le frère, Inch'Allah ta'ala, avoir beaucoup de khamis et de parfum, si c'est beaucoup de khamis, yani au point où la personne change matin et soir, comme ça, yani ce n'est pas bien dans le sens que ça va contre, yani à l'encontre de l'ascétisme. Mais si je veux dire par beaucoup, car c'est relatif, qu'est-ce que ça veut dire beaucoup? Chez quelqu'un, par exemple, 5 c'est pas beaucoup. Chez l'autre, 3 c'est beaucoup. Et comme ça. Non, mais s'il veut dire par beaucoup que yani, il a un certain nombre de ramis pour que chaque semaine yani, il change. Il ne se trouve pas, yani, il se trouve pas, comment qu'on dit, yani, dans la daroula. Des fois il dit, j'ai pas quoi mettre. Non, mais alhamdoulilah, il y a un qamis ou deux qui sont yani, en plus dans l'armoire pour les mettre. Dans ce cas, Inch'Allah ta'ala, ça ne va pas contre l'ascétisme. Et c'est bien de mettre le parfum. Le prophète sallam, on ne le sentait qu'avec un bon parfum. Non, pour le parfum, Inch'Allah ta'ala, ça ne rentre pas. Yani, sauf si tu veux dire par parfum, yani, le parfum cher, yani, Christian d'or ou la Christian Dior, ou la, je ne sais pas comment ça s'appelle, et j'y vinché ou je ne sais pas quoi. Mais si tu veux dire par parfum des choses modestes et le musc, etc., pour yani, pour appliquer le verset Dior, alhamdoulilah, pour appliquer le verset, prenez Qudouzina takum in kulli masjid, prenez votre parure dans chaque soujoud, chaque prière. Dans ce cas, si c'est avec cette intention, c'est bien, Inch'Allah ta'ala. Wa ala alam, tfadl. Naam, pour ensuite, il y avait une deuxième question que le frère l'a déjà posée. On va pas le laisser revenir comme ça les mains vides. Il a dit comment se comporter avec les personnes âgées qui suivent l'imam de notre mosquée, qui est un Ikhwani Soufi, sachant qu'ils ne prennent pas le conseil. Naam, dans ce cas, c'est très difficile. Naam, c'est très difficile de vouloir ou d'essayer de les convaincre, alors que lui, il a le micro, il a le mimbar, il a les doros, il a ceci, il a cela. Naam. Toi, Inch'Allah ta'ala, tu patientes pour Allah subhanahu wa ta'ala, et tu fais la da'wa aux jeunes, à ceux qui comprennent. Là, un vieux, c'est un peu trop tard pour lui faire la da'wa et lui faire comprendre ça. Sauf si c'est lui qui vient vers toi, et si c'est quelqu'un de ta famille, ou bien c'est quelqu'un qui te fait confiance et qui aime t'écouter, dans ce cas, tu lui propages, Inch'Allah ta'ala, la da'wa. Sinon, patiente et fais-la aux jeunes, bi'idhna ta'ala, car les jeunes, eux aussi vont devenir vieux. Avant de vieillir, Inch'Allah ta'ala, fais-leur la da'wa bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfadla.
En fait, cher, je ne voulais pas poser la question car elle était posée dans le salon réservé aux questions pour le cours et elle n'avait aucun rapport avec le cours. C'est surtout pour ça. Et donc, je vous pose la question suivante d'un frère qui dit qu'Allah vous récompense, cher, ainsi que les admins. Donc, une sœur demande, je suis reconverti, alhamdoulilah, depuis 3 ans. Et j'essaie de faire la da'wa à ma mère, qui est catholique très pratiquante. À plusieurs reprises, donc elle a essayé de lui faire da'wa, mais le ton montait souvent, car elle avait des propos assez durs sur l'islam. J'ai donc essayé de lui donner un livre sur Isa, alayhi salam, mais les seuls détails qu'elle a retenus du livre est au début de la généalogie de tous les prophètes, et a accusé les musulmans de s'approprier tous les prophètes. Donc de quelle autre manière puis-je lui faire la da'wa? La da'wa juste par le comportement suffit-elle, sachant que les autres tentatives ont été un échec, ou dois-je patienter et tenter de relancer le dialogue à ce sujet à des moments opportuns? Barakallahu fikoum, cher.
Naam, alaykoum salam, wa barakatou. Je dis, au billah subhanahu wa ta'ala, tawfiq, que ce qu'il faut d'abord pas oublier, c'est de faire beaucoup de doigts. Et toujours d'avoir entre les yeux le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tous les cœurs des êtres humains sont entre deux doigts, des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il les renverse comme il veut. Donc, d'une seconde à l'autre, Allah ta'ala peut lui renverser son cœur. Donc, si on connaît ce hadith, on n'est jamais. Attendez, je cherche le mot, comment on dit? Yes, yes. Ça veut dire que jamais on ne désespère. Jamais on ne désespère. La grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et jamais on ne perd espoir. Naam, elle dit ça la première. La deuxième, le comportement joue un grand rôle. On peut faire la da'wa seulement avec le comportement, sans dire un mot. Exactement comme ont fait les sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, quand ils sont allés en Inde, en Égypte, en Iran, naam, ils sont comment ça s'appelle, c'est en Chine. Ils sont allés faire le commerce là-bas, ils ont fait la dawa avec le bon comportement. Les gens les voyaient, comment qu'ils étaient pendant le commerce, mashallah, ils trichaient pas, ils te permettent d'acheter à crédit, il te manque un sou, ils te disent ça fait rien, et comme ça, ils ont dit c'est quoi ça? Ils ont dit ça c'est l'islam. Ils ont dit nous on veut yani, un din pareil. Et troisièmement, je lui ai dit, naam, naam, quand le moment opportun arrive, et que c'est elle qui ouvre le sujet, ou bien c'est quelque chose qui a un rapport avec le sujet, parle, inshallah ta'ala, sans critiquer. Sans critiquer dans le sens, yani, sans insulter, etc. Naam. Parle, yani, juste en faisant, par exemple, une remarque, en montrant, yani, la différence. Regarde, par exemple, en islam, comment c'est. Regarde, par exemple, yani, en islam, comment c'est la chose. Et comme ça. Naam. Et si elle entend, elle écoute, alhamdoulilah, si elle dit je veux plus parler de ça, et même plus de ça, etc., tu te tais, alhamdoulilah. Tu t'es tu, par, pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas écouter, c'est elle qui t'a dit tais-toi. Donc, t'es, naam, et je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala, et si Allah subhanahu wa ta'ala veut la guider, l'autre elle rentre en islam, bi'idnillahi ta'ala. Naam, tfadlal.
Allahu fikoum, cher, question suivante d'une sœur qui dit: si Allah Ta'ala, du jour au lendemain, vous accorde une grosse somme d'argent, une donation d'un membre de la famille d'environ 20 000 euros, sachant que vous n'avez jamais fait le Hajj, alors que faut-il faire? Privilégier le Hajj ou bien ouvrir un petit commerce en espérant qu'Allah Ta'ala fasse fructifier cet argent, puis ensuite aller au Hajj? C'est donc un conseil que j'aimerais avoir, vu qu'il faut demander conseil au pieux, inshallah. Barakallahu fikoum.
Walaykoum salam, rahmatullah. La première des choses qu'on devrait faire, c'est d'aller au Hajj. Naam. Le Hajj, c'est quoi? L'un des piliers. Allah Ta'ala, maintenant, qui m'a enrichi? Qui a fructifié mon commerce? C'est Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maintenant, je veux le remercier. Comment faire? Donc, faire un des piliers de l'islam, aller au Hajj. Subhanallah al-Azim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Ajilu bil Hajj. Il a dit, hâtez-vous, comme ça il a dit, précipitez-vous, hâtez-vous, comme ça il a dit par rapport au Hajj. Il a dit pourquoi? Il a dit car il se peut que l'occasion ne revienne pas. Il se peut que la personne tombe malade, il se peut que la personne meure, il se peut qu'il arrive telle et telle chose, un empêchement. Il a dit, il se peut que l'empêchement arrive. Naam. Surtout, puisque la personne est jeune, pour le Hajj, ça va lui être facile. Mais si elle laisse maintenant qu'elle atteigne 50, 60, 70 ans, ça va lui être très difficile d'aller au Hajj. Naam. Pour aller de la Mecque à Minan, elle peut pas. Pour faire telle et telle chose, elle peut pas. Et comme ça. Et ça va être, yani, un embarras, un grand embarras pour elle. Donc, la première des choses que la personne doit faire, quand Allah Ta'ala l'a enrichi, c'est d'aller au Hajj, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Tfadlal.
Cheikh, c'est bien à moi parce que Zakaria parlait très fort, j'ai pas entendu si vous aviez fini. Donc écrivez un si c'est bien à mon tour de vous lire une question. Alhamdoulilah. Donc la question d'une sœur qui dit: qu'Allah Ta'ala vous récompense tous en bien et vous accorde le Firdaus. La question concerne la validation d'un mariage et l'avortement. Une sœur s'est mariée religieusement avec un frère sans faire la walima et sans faire l'acte à la mairie. Ensuite, elle est tombée enceinte et son époux était énervée, donc elle a demandé à ceux qu'Allah et donc elle a demandé à ceux qui la répudient et il l'a répudié. Ensuite elle a accouché et la belle famille est venue la chercher pour l'héberger chez eux. Le frère a décidé de ramener la sœur dans sa famille et le bébé, mais ils ne s'entendent toujours pas et il l'a maltraitée. J'aurais aimé savoir si elle est considérée comme mariée à lui. Donc si on considère qu'elle a forniqué, car elle n'a pas fait un mariage comme dans la sunna, est-ce qu'elle aurait pu avorter pour éviter des problèmes ou des représailles venant de son entourage, ou même pour des raisons financières? Quelles sont les conditions générales pour qu'une femme avorte en étant mariée ou non? Comment peut-elle s'acquitter de son péché, condition lorsqu'il y a eu fornication adultère dans les règles de l'islam, tout en évitant dans un pays mécréant? Barakallahu fikoum, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Je pense, Wallahu ta'ala alam, que vous vous rappelez ce que j'ai dit la fois passée. C'était dans le cours passé. Pour les personnes qui se rencontrent en cachette, sans faire la walima. Et comment ça peut avoir un résultat yani vraiment décevant. Et c'est ce résultat dont je parlais. Là, maintenant, elle est tombée enceinte et les gens, personne ne sait qu'elle s'est mariée. Moi, premier, si c'était ma voisine, ensuite je la vois avec son ventre comme ça, je vais m'étonner. Je vais dire, subhanallah, j'ai jamais entendu que celle-là s'est mariée. C'est ma voisine, comment? Si elle s'était mariée, il m'aurait invité. J'aurais entendu. Al-Muhim. Et ensuite, où c'est grave? Puisque c'est seulement, yani, religieusement, c'est pas sur la mairie. À la mairie. Des fois, le mari nie, il dit, je connais pas cette femme. C'est qui celle-là? Je me suis jamais marié avec elle. Ça, c'est encore plus grave. Al-Muhim. Toute personne qui contredit la sunna ou un précepte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça lui arrive une fitna. Regardez, inshallah ta'ala, le verset qui va suivre, le verset qui va venir. Donnez-moi une seconde, inshallah ta'ala, pour le verset. Une seconde. J'espère qu'il est bien traduit en français, c'est tout. Une seconde. Regardez le verset. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا voilà le témoin فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous adressez les uns aux autres. Allah connaît certes ceux des vôtres qui s'en vont secrètement en s'entrecachant. Voilà le témoin. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement, le commandement du prophète, prennent garde qu'ils ne les atteignent et que ne les atteigne un châtiment douloureux. Vous avez remarqué? Que prennent garde ceux qui s'opposent à son commandement, au commandement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'ils prennent garde qu'une épreuve. Tu contredis le prophète, ça t'arrive une fitna. Alors, quand tu vas mourir, un châtiment douloureux. Une seconde. J'ai compris ce que veut dire Fawzi. Une seconde. Voilà Fawzi. Je t'ai compris. Non. On revient donc, inshallah ta'ala, à notre question. Celle-là. Attendez, je ne trouve plus la souris. Une seconde. Je ne trouve pas la souris. Une seconde. Donc, ce couple-là, dans la question, alhamdoulilah, ils avaient fait quoi? Ils avaient fait, alhamdoulilah, le mariage religieux. Donc, dans ce cas, c'était sa femme. Et, bien sûr, on va dire d'elle que Yani, c'est sa femme. Et que l'enfant, c'est leur enfant. L'enfant, c'est leur enfant. Même s'ils ont enfreint la sunna et qu'ils sont tombés dans la fitna. Mais l'enfant, c'est leur enfant du mariage religieux. Ensuite, ils se sont séparés, il a divorcé. Et elle dit, est-ce que j'aimerais savoir si elle est considérée comme mariée à lui. Elle n'est pas considérée mariée à lui tant qu'il ne l'a pas encore reprise. Reprendre, ce n'est pas dans le sens de l'héberger. Je peux héberger ma femme que j'ai divorcée sans la reprendre. Vous comprenez? Je la fais venir, je lui donne une pièce dans ma maison, mais je ne l'ai pas reprise. Comme je peux m'approcher d'elle, etc., sans la reprendre. Non. Car pour revenir vers sa femme, la reprendre, il faut lui dire, voilà, je te reprends. Surtout devant deux témoins, c'est encore mieux. Mais s'il lui dit pas, je te reprends, alors il l'approche intimement, mais avec la niya que c'est pour la reprendre. Sinon, comme j'ai dit, il y a certains hommes qui n'ont pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait la niya de la reprendre, il dit, je profite. Puisqu'elle est là chez moi, je profite, je m'approche d'elle intimement, alors qu'il ne la reprend pas. Et dans ce cas, il est tombé dans la zina, wal iyad billah. Donc cette femme ici, on va lui demander, maintenant il t'a dit, et on va voir ce qu'il t'a dit, je te reprends. Est-ce qu'il t'a dit, je te reprends, il ne l'a pas encore dit. S'il n'a pas dit, tu n'es pas encore sa femme, tu es toujours divorcé. Quand la période viduité se termine, trois fois les menstrues, tu n'es plus son épouse. Mais si dans dans ce délai-là, les trois menstrues, il va te reprendre, soit en disant je te reprends, ou bien soit en s'approchant de toi avec l'intention de te reprendre, dans ce cas, vous êtes revenus l'un à l'autre. Nam. Reste pour avorter, etc. L'avortement est interdit en islam. Est interdit en islam, surtout, nam, quand il dépasse les 40 jours. Et plus grave s'il dépasse les 4 mois. Entre un jour 40 et 40, c'est plus ou moins interdit, plus ou moins possible de le faire. Entre 1 et 40. Entre 40 et 4 mois, on ne le fait que dans un besoin. C'est la fatwa de Cheikh Ben Uthaymeen. Entre 1 jour et 40, c'est plus ou moins. Entre 40 et 4 mois, on ne le fait que dans un besoin, vraiment un besoin. Entre un mois et quatre, vraiment dans un besoin. Après 4 mois, c'est interdit dans tous les cas. Au point où Cheikh Ben Othaymine a dit, après 4 mois, même si la femme, la mère, venait à mourir, elle fait pas l'avortement. Car certains savants disent que l'essentiel, yani, c'est pour sauver l'enfant. Cheikh Ben Othaymine a dit non. Non, il n'a pas plus d'importance. Qu'elle dit c'est pour elle doit faire ça, sinon elle va mourir. Cheikh Ben Uthaymeen a dit, elle n'a pas plus, yani de, comment dirais-je, plus de valeur que son enfant. Son enfant c'est aussi une âme. Et maintenant ça c'est 4 mois. Allah Ta'ala a insufflé l'âme. Donc pourquoi tu te permets de le faire mourir pour que tu vives toi? Pourquoi c'est pas le contraire? Pourquoi c'est pas qu'elle meurt? Quelle est la différence? Donc c'est très très grave après 4 mois. Bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib, tfadla inshallah ta'ala pour une autre question.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: Je souhaiterais faire du commerce international. Donc je pense que c'est un frère plutôt. Je risque de ne plus m'occuper de ma famille. Car les. La question n'est pas structurée. Donc je souhaiterais faire du commerce international. Je risque de ne plus m'occuper de ma famille à cause des voyages. Est-il plus méritoire de m'occuper d'eux plutôt que de faire ce genre de travail? Est-ce que les compagnons faisaient du commerce et délaissaient leur famille? Barakallahu fikoum ya cheikh, hayakoum Allah.
Naam, alaykoum salam, je te donne un conseil à toi et à tout ce qui m'entoure. entendre et à moi-même. Naam. Essaye, inshallah, de ne pas rentrer dans le commerce. Naam. C'est très difficile de notre temps de faire le commerce. Et si c'est de notre temps de faire un commerce ou là, de faire le commerce sans tomber dans le haram. Si tu fais le commerce, fais-le pas à un point comme tu dis, commerce international, etc. pour m'enrichir. Si je fais, je le fais un commerce modeste. Juste, naam, je vends telle chose, j'achète une chose, je vends une chose, et comme ça. Mais ne fais pas le grand commerce, pas te faire courir matins et soirs dans les banques, dans les voyages, dans les avions, dans ceci, dans cela. Et la première des choses que tu vas perdre, c'est ta salate. Tu ne vas plus faire la salate à l'heure. Ensuite, c'est ta famille. Tu n'auras plus le temps. Tu envoies des SMS et tout, tu n'es pas là. Et comme ça. Mais je te conseille de faire quelque chose qui fait de sorte qu'il te fait rentrer une paye à la fin du mois. Et ça te suffit, bilna ta'ala. Non. Même si c'est quelqu'un qui fait le commerce ou là, qu'il mette quelqu'un, il délègue quelqu'un, il lui dit, non, je te donne tant par mois et yani, occupe-toi de quelqu'un de sérieux. Et toi, inshallah ta'ala, tu es avec ta famille en train de demander la science, etc. Et tu verras, inshallah ta'ala, que tu te sentiras le plus riche, bi'idhnillah ta'ala. Naam. Tfadlal.
Allahou fikoum, cher. Question d'une sœur. Voilà, cher, je connais une sœur qui a des origines musulmanes. Sa mère est née d'un père musulman. Mais elle a un père mécréant. À son jeune âge, avant qu'elle soit pubère, son père l'a ramenée à l'église pour lui faire faire son baptême. Mais quand elle a eu l'âge de la puberté et qu'elle raisonnait, elle se considérait tout le temps comme musulmane. Elle ne s'est jamais considérée chrétienne. Mais elle ne priait pas. Et la famille de son père lui faisait manger du porc. Donc la question de la sœur est, a-t-elle besoin de dire la shahada pour se reconvertir?
Je relis la question, barakallahu fikoum. Je suis en train de la redire. Sa mère est née, voilà, je connais une sœur qui a des origines musulmanes. Sa mère est née d'un père musulman, mais elle a un père mécréant. Et à son jeune âge, avant sa puberté, son père l'a amené à l'église pour lui faire un baptême. Mais quand elle a eu l'âge de la puberté, qu'elle raisonnait, elle se considérait tout le temps comme musulmane. Et elle ne s'est jamais considérée comme chrétienne. Mais elle ne priait pas. Et que la femme et son père lui faisaient manger du porc. Donc la question est, la sœur a-t-elle besoin de dire la shahada pour se reconvertir? Non. Pour que la personne se reconvertisse, il faut quoi? Il faut que elle ait déjà été dans un autre din. Mais si elle, pour elle, yani, tout le temps elle est musulmane. Tout le temps. Et que ce qu'elle a fait ici, c'était avant la puberté. Avant la puberté. Maintenant, en devenant pubère, d'ailleurs, j'ai oublié de dire une chose. Ensuite, cette personne, elle n'a pas dit, par exemple, si elle priait ou pas. Maintenant, si cette personne, ça veut dire qu'elle est déjà musulmane. Le fait en priant, en disant, Allahu Akbar, que je suis musulman, n'est-ce pas? Non, pas autrefois, maintenant. Maintenant. Est-ce qu'elle prie ou elle ne prie pas? Non. Ensuite, si elle voudrait sortir des divergences, elle voudrait sortir des divergences. Qu'est-ce qu'elle perd en disant la shahada? Qu'est-ce qu'elle perd en disant shahadu la ilaha illallah, wa shahadu Muhammadan Rasulullah, et ashhadu que Isa, c'est-à-dire Jésus, c'est qui? C'est Abdullah wa Rasuluhu. C'est le serviteur d'Allah et son messager. Donc si elle veut sortir des divergences, qu'elle dit ça. Pourquoi moi j'ai demandé si elle priait? Car si elle prie maintenant, si elle prie, avant de prier, il faut qu'elle fasse le wudu. Et quand elle termine le wudu, elle dit Shahadu la ilaha illallah, Shahadu Muhammadan abdu wa rasuluhu, wa mj'alni min tawwabin, wa mj'alni min mutatahhirin. Les musulmans, bi ta'ala, elle n'a pas besoin de dire la shahada bi idhnillah ta'ala. Naam, tfadl.
Barakallahu fikoum, cheikh. Question d'une sœur. Changer. Concernant le cours, je voulais savoir si on achète des biens comme une voiture neuve, une belle cuisine, plusieurs djilbabs, etc., mais tout en faisant des aumônes sans compter. Est-ce que cela peut prouver qu'on est attaché aux biens de ce monde? Barakallahu fikoum. En même temps, Cheikh, le dernier hadith que vous avez cité, qui utilise les termes quiconque fait de l'au-delà, etc., par qui a été rapporté ce hadith? Barakallahu fikoum, Cheikh.
J'ai pas compris de quel hadith parle la personne. Est-ce que tu peux me répéter, Inch'Allah?
Moi non plus, j'ai pas très bien compris parce que c'est écrit quiconque, etc. Pendant que Cheikh vous répondait à la première question, je vais essayer de retrouver les paroles un peu plus haut, Inch'Allah. Donc la première question était, si on achète des biens, comme une voiture neuve, une belle cuisine, des vêtements, etc., mais qu'on fait beaucoup d'aumônes, est-ce que cela peut prouver qu'on est attaché aux biens de ce monde? Barakallahu fikoum, Cheikh.
Il faut dire qu'il y a certaines personnes qui, des fois, ont vécu dans les ans, mais qui en même temps font beaucoup d'aumônes et donnent beaucoup aux pauvres, etc. Ceci, ce qu'ils donnent, etc., c'est une preuve qu'ils ne sont pas attachés à ce bas monde. Car celui attaché à ce bas monde ne peut faire l'aumône. Il ne peut aider. Il a peur, il est avare. Il a peur que cet argent parte et sorte de son compte. Yani joue entre les deux. D'un côté, yani, il aime s'habiller, etc. Non, mais de l'autre, par contre, il fait des etc. Inch'Allah ta'ala, ça ne se contredit pas. Donc voilà le hadith. Man kanat al-akhiratu hamma, ja'ala Allah ghina fi qalbi, etc. Ce hadith, Cheikh Al-Albani a dit authentique. C'est un hadith rapporté par Tirmidhi. Quand vous écrivez quelque chose, il y a des fois où c'est tout. Donc voilà, Inch'Allah ta'ala, le hadith en face avec l'imam, etc. Tafadhal.
Barakallahu fikoum, Cheikh. Donc, je n'ai pas eu le temps de vous coller la nouvelle question, comme j'étais en train de chercher le hadith. Et je vous la lis. Bismillah. Jazakumullah khaira, Cheikh. Question donc d'une sœur qui dit, cela fait la première fois que c'est la première fois que je me connecte et que j'arrive à être dans les premiers pour lever la main, donc j'en ai profité pour vous poser une petite question. Et surtout, ça me permet de vous remercier personnellement pour votre travail que vous entreprenez, de nous faire cours pour nous francophones. Et sachez que vous m'encouragez à obéir à Allah Azza wa Jal. Jazakumullah khaira. Merci beaucoup. Alhamdulillah, qu'Allah Ta'ala vous couvre de sa rahma ainsi que votre famille, qui Ta'ala vous accorde une place aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour la question, j'essaye d'apprendre à faire la toilette mortuaire. Qu'Allah Ta'ala m'aide. Dans mon apprentissage, je trouve beaucoup de supports où il est expliqué la manière d'envelopper la femme avec le linceul, qui est fait de 5 morceaux. Cependant, il est que cette manière, donc le linceul en 5 morceaux, est basée sur un hadith faible à ce que j'ai compris. Alors je suis dans la confusion. Donc le meilleur, doit-on donc envelopper la défunte avec un linceul coupé en 3 morceaux, comme pour l'homme, ou bien en 5 morceaux, ou plus, ou autre. Barakallahu fikoum, ya Cheikh. Barakallahu fikoum, wa jazakumullahu khaira, wa zamin. Amin. Jazakallahu khaira.
Naam, fiki, barakallah. Je dis, le fait d'apprendre à lever et à laver mort, c'est vraiment quelque chose de mashallah. Dans le péché, comme vous savez. Et ça rapproche beaucoup de l'au-delà. Quand quelqu'un voit un mort comme ça, devant lave, subhanallah al-adim, ce jour, il va pas manger ou dormir tellement il va se sentir lui-même dans l'au-delà. Non, c'est bien pour les gens qui font comme ça, à condition de ne pas le faire tout le temps pour que ça devienne pas quelque chose d'habituel, pour que ça devienne pas quelque chose d'habituel. Ensuite, ça donne pas l'effet sur le cœur. El Mouhim. Non, le hadith qui dit pour la femme, on la couvre dans 5 morceaux de tissu. Non, pour le linceul, ce hadith est daif. Le hadith sahih, c'est de faire de la femme comme de l'homme. Seulement 3 morceaux de tissu. Ensuite, je dis à cette sœur et à n'importe qui, aussi aux frères, celui qui veut apprendre le lavage mortuel, je lui conseille seulement le livre de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Ahkam al-Janaïd. de la genèse, les règles, choses comme ça, les règles funéraires. Naam. Akhi, Okhti, ce livre te suffit. Tu vas trouver à l'intérieur tout ce qu'il faut pour comment laver, ne pas laver, et ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas, Inch'Allah ta'ala. Tfadla.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit Hayakum Allah ala al-haq ya cher. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez la santé bénigne. J'ai récemment lu Muhtasar Minhaj al-Qadisi de Ibn Qudama al-Maqdisi et je n'ai pas très bien compris un passage concernant Az-Zuhd. Si vous pouvez nous éclaircir sur cela, Inch'Allah. Le passage, cher, sache que l'ascétisme dans ce bas monde est un comportement respectable qui fait partie de la station des itinérants, Salikin. Az-Zuhd consiste à détourner nos désirs d'une chose vers ce qui est meilleur, à condition que ce dont on se détourne soit quelque chose de souhaitable. Les questions, chères, sont qui sont donc les Salikin et que veut-on dire par détourner nos désirs d'une chose vers ce qui est meilleur? Pardon pour la longueur, jazakumullah khaira, qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez et vous accorde le Firdaus, chère. Et nous accorde le Firdaus.
Donc je dis, là, il y a deux questions dans la question. C'est qui Sadikin? Sadikin, ce sont ceux qui sont dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit deux Sadikun. Et Sadikin quand c'est majrur. Sadik, ça veut dire il a pris le sentier. Toute personne qui est dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit deux les Sadikun. Ceux qui yani, suivent le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim. Et ceux qui le suivent ici, le mot salikun, ça se disait surtout chez les salafs autrefois, car vraiment, ils étaient dans le sentier à fond. Ils étaient dans le sentier à fond. Ensuite, la deuxième question, c'était, qu'est-ce que ça veut dire de délaisser une chose, détourner nos désirs d'une chose vers ce qui est meilleur? En fait, il a dit ici, le vrai ascétisme, c'est de quoi? De détourner ton désir d'une chose, yani qu'on désire. Attendez, comment il a dit ça? Qu'on se désire d'une chose qui est vers ce qui est meilleur, à condition que ce dont on se détourne soit quelque chose de souhaitable. Naam. Comme j'ai dit tout à l'heure, le vrai ascète, c'est celui qui a la chose, qui veut la chose, mais qui la délaisse. Il détourne son désir pour une chose meilleure, c'est ce qu'il y a dans l'au-delà. Ou alors une chose meilleure ici, c'est pour lire le Coran, pour prier, pour ceci, au lieu d'aller vers la chose qu'il a désirée. C'est pour ça que le vrai ascète, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui peut se permettre une chose qu'il désire, mais il s'en détourne pour Allah Azza wa Jalla et pour son paradis. Ce n'est pas comme le pauvre qui n'a rien et dit « moi je suis un ascète ». On lui dit non, le vrai ascète c'est celui qui a les moyens de se procurer des choses qu'il désire, mais il s'en détourne pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse.
Barakallahu fikoum, cher. Question d'une sœur qui dit qu'Allah vous récompense et vous accorde le firdaus à vous tous. Amin. La question, mes parents achètent de la viande qui n'est pas halal. Mais après avoir vu les versets qui interdisent cela. Et souvent, c'est moi qui dois cuisiner chez nous. Et ma mère me demande de faire cette viande pour tout le monde. Sachant que moi je n'en mange pas, j'ai l'impression, la cuisinant, de les pousser eux ainsi que les autres à continuer à en consommer. Si je ne cuisine pas ce que ma mère me demande, elle me fait des problèmes. Donc comment puis-je faire dans ce cas? Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khair, cher.
Demande-lui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ici, Naam, de la viande pas halal? Est-ce que ça veut dire que c'est écrit dessus halal, mais pour la sœur, elle n'est pas convaincue, elle dit non, peut-être que ça n'a pas été égorgé, ou bien carrément, ils achètent de la viande qui n'est pas égorgée. Tfadval.
Le temps de poser la question, cher, je vais vous poser la question suivante. La question d'une sœur qui dit qu'Allah vous récompense ainsi que les admins. Qu'Allah vous récompense pour ce que vous faites pour nous, il n'y avait pas pour les admins à la fois. Je voudrais savoir s'il y avait un délai de viduité lors d'un divorce après les loquis, sachant qu'il y a eu des rapports. Je veux demander le khula, mais je n'ai nulle part où aller. Alors je veux qu'il me divorce, comme ça je n'aurai plus de devoir envers lui et un délai pour trouver une solution. Car à ce jour, je dois lui donner ses droits et de plus en plus, lui donner ses droits de plus en plus durs. Et je voudrais savoir quel rapport peut avoir ma fille avec l'enfant illégitime de mon mari, qui la en garde parfois avec sa sœur qui lui est légitime. Devra-t-elle se voiler devant lui à l'âge du hijab, car il est quand même un mahram pour elle ou non? Barakallahu fikoum, cher. Cher, pendant que vous faites une pause, la sœur dit, j'ai tenté de poser des questions il y a quelques semaines, mais aucun des admins n'a pris ma question. Puis un des admins m'a renseigné quant au fait que Cheikh ne répondait pas aux questions de séparation-divorce. Puis après, j'en ai entendu quelques semaines plus tard. Allahu a'lam, de temps en temps, on est tellement débordé qu'on fait passer des questions alors qu'à la base, on ne devrait pas. Et je fais un rappel justement pour dire que Cheikh est là pour nous éclairer au niveau du dîn. C'est-à-dire que ceux qui ont des questions, des interrogations par rapport à une chose qui a un rapport avec dîn, Cheikh pourra nous éclairer sur les paroles des savants. Mais quand c'est une question sociale, ou une question par rapport au divorce, de relation de couple ou autre, Cheikh n'est pas habilité à y répondre. D'ailleurs, si vous posez des questions, c'est la même question, sur des cas de divorce ou autre, à des savants encore plus grands, tels que Cheikh Fawzan ou autres, ils vous renverront vers Dar al-Ifta, vers les qadis, vers les juges et autres. Donc, qu'est-ce qu'il en est de Cheikh? Donc, barakallahu fikoum, de ne pas mettre Cheikh et nous-mêmes dans la gêne, en essayant d'avoir des réponses qui sont plus sociales que religieuses. Donc, rappelez-vous juste que Cheikh est là pour nous donner des explicitations religieuses, en quelque sorte. Barakallahu fikoum. Et c'était juste pour éclairer par rapport à la suite de la question.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vous m'entendez, Inch'Allah? Alhamdulillah. Donc, on répond à la question de la sœur qui a dit que. Une seconde ici, je reprends la question. Elle a dit. Je veux savoir s'il y avait un délai de viduité lors d'un divorce après les logis sans qu'il ait eu de rapport. Sans qu'il ait eu de rapport. Non, après les logis, si pendant les logis ou là après les logis, quelqu'un divorce sa femme, non, il peut la divorcer, ce n'est pas comme pendant les menstrues. Pendant les menstrues, c'est interdit de la divorcer. Même si. Maintenant, s'il va la divorcer, certains ont dit, non, on dit que ça compte pas. Cheikh Ben Baz, Cheikh Ben Othaymine, la plupart des savants d'Arabie Saoudite, et d'autres ont dit ça compte, comme Cheikh Al-Albani. Il a dit même pendant les menstrues, c'est interdit, mais ça compte. Le moins, il y a une divergence. Dans les logis, Cheikh Ben Othaymine dit c'est permis. Et elle va compter comme pendant les menstrues. Elle va attendre qu'elle se purifie. Elle compte trois fois les menstrues. Elle compte trois fois. Les menstrues, après les trois menstrues, elle voit la purification, elle prend la douche et c'est terminé entre elle et son mari. Mais ici elle dit, car je dois lui donner ses droits, de plus en plus c'est dur, etc. Je n'ai plus de devoir envers lui pour trouver une solution. Non. On me parle de l'horloge, hein, il n'y a plus l'horloge. Hein. Pourquoi elle n'apparaît plus, ça? Hein? C'est normal. Pourquoi elle n'apparaît plus, c'est vrai. Une seconde. C'est écrit ici 6 minutes. 6 minutes. Donc, on va la reprendre dans 6 minutes. Une seconde. 30, non, c'est pas 30. Allez, 6 minutes. Je reviens à la question. Je veux demander le khula, mais je n'ai nulle part où aller. Alors je veux qu'il me divorce, comme ça je n'aurai plus de devoir envers lui et un délai pour trouver une solution. Non, pendant, si jamais il divorce, comme j'ai dit, c'est trois fois les menstrues, à condition que pendant toute cette période, il n'y a pas de rapport entre les deux. Maintenant, s'il y a un rapport, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il l'a reprise. Ça veut dire qu'il a repris sa femme. Naam. En sachant que pendant la période viduité, elle est toujours son épouse. Elle est toujours son épouse. Naam. C'est-à-dire qu'elle ne se voile pas devant lui, ne se voile pas devant lui. Et si jamais il meurt, elle va l'hériter. Et si jamais elle meurt, lui, il l'hérite. Quant au garçon, naam, le garçon de ce mari, son garçon illégitime, ta fille, naam, elle doit quoi? Elle doit se voiler devant lui quand il grandit. Quand il devient pubère, elle doit se voiler devant lui, car son garçon qu'il a, naam, c'est quelqu'un d'illégitime. Naam. Donc pour toi, naam, pour ta fille, c'est un étranger, elle peut se marier avec lui. C'est pour ça que elle doit se voiler devant lui. Ce n'est pas un mahram. Et ce n'est pas un mahram pour elle. Naam. Fadlal.
Juste pour vous rappeler qu'il y a la question de la sœur qui a dit que ses parents achètent de la viande pas halal. Mais après avoir lu, même après avoir lu les versets qui interdisent cela, et souvent c'est elle qui doit la cuisiner. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle a dit que cette viande est celle qui est vendue en grande surface et elle n'est pas certifiée halal. Et des fois ses parents achètent de la viande où c'est écrit halal, mais pour elle ce sont des mauvaises certifications. Allah
Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatouh. Jeudi, si la sœur donc atteste que cette viande n'est pas halal, dans ce cas, elle ne peut plus la cuisiner. Elle ne peut plus la cuisiner, quitte à avoir des problèmes avec les parents. Car les problèmes qu'elle va rencontrer demain dans l'au-delà sont plus graves que les problèmes qu'elle va rencontrer avec ses parents ici. Donc elle va voir comment, yani, disons, convaincre sa mère. Car sa mère, c'est elle l'essentiel. C'est elle qui va lui demander de cuisiner, etc. Elle la prend à part et elle lui explique gentiment. Elle lui dit, voilà, je peux pas, yani, être contrainte à faire quelque chose qui, yani, pour moi, c'est haram. Elle lui dit, si tu veux, je te fais le ménage toute la journée, je lave les murs, je fais n'importe quoi. Mais ne me dis pas seulement de cuisiner la viande. Je te cuisine tout ce que tu veux d'autre. Le café, le thé, les lentilles, le riz. Ne me demande pas seulement quand il y a la viande. Pourquoi? Sauf si tu achètes de la viande de halal. Ensuite, ma mère, toi, pourquoi, Yanni, on ne fait pas un pacte entre nous? Laisse-moi, Yanni, si c'est loin ou là, c'est moi qui vais acheter la viande. Comme ça, moi, j'achète de halal et comme ça, je peux te cuisiner ce que tu veux et quand tu veux. Mais si maintenant tu veux pas m'entendre et tu achètes la viande de haram, moi je te dis que je ne cuisine pas. Et si on te frappe, si on t'insulte, si, tu dois accepter tout cela pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et te dire que les problèmes ici, même s'ils sont graves, sont moindres que les problèmes demain devant Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir aidé les gens à manger le haram. En cuisinant, tu les aides à faire le haram et à manger le haram. Allah Ta'ala a dit, wala ta'awanu al-ithmi wal-udwan. Allah Ta'ala a dit, et ne vous entraidez pas dans la turpitude et le péché. Puisse Allah Subhanahu wa Ta'ala t'aider. Tafadhal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur. Nous habitons en France, ma femme et moi, enfin c'est plutôt un frère alors avec le pseudo de sa femme. Nous habitons en France, ma femme et moi, et mes trois enfants. Et ma femme est enceinte de notre quatrième enfant, alhamdoulillah. Nous souhaitons faire la hijra en Algérie, inshallah, mais nous n'avons pas de logement là-bas. Et je n'ai toujours pas d'emploi également. Pouvons-nous contracter un crédit immobilier à 1% d'intérêt, sachant que ce sera notre résidence principale? Barakallahu fikoum, cher.
Walaykoum salam, réponse non, ce n'est pas possible. Parce que vous voulez faire la hijra spécialement, pourquoi on fait la hijra? Pour ne plus faire de péché et pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Alors qu'en faisant 1% d'intérêt ou là 2% ou là 3% ou là, yani, c'est comme si tu fais 50% ou là 100%. Non. Et vous connaissez le statut de l'usure en islam. Et que le moindre degré du péché de l'usure, c'est comme celui qui fait la zina sa mère, a'oudhou billah. Donc, à quoi ça sert maintenant de vouloir faire la hijra si, a'oudou billah, je vais faire la zina avec ma mère? Naam. Tfadl.
Allah fait comme cher. Question d'une sœur qui dit, j'ai une question concernant Zakat el Mal. Elle donne un exemple. Le 1er janvier 2012, j'avais un capital de 3 000 euros. Un an plus tard, le 1er janvier 2013, j'ai un capital de 5 000 euros sans être descendu en dessous du nisab pendant l'année entière. Dois-je payer la zakat sur les 3 000 euros ou sur les 5 000 euros? Barakallahu fikoum et qu'Allah nous facilite l'apprentissage de la science.
J'ai ici deux remarques. La première, c'est là que la réponse, c'est quoi? Elle doit faire la zakat sur les 5 000, pas sur les 3 000. Non. J'avais un capital de 3 000, j'avais un capital de 5 000. Non. C'est toujours en voie. Quelle est la somme que j'ai maintenant quand c'est le moment de la zakat? Quelle est la somme que j'ai maintenant quand c'est le moment de la zakat? Non. Surtout, si cet argent, c'est-à-dire les 2 000, parce que c'était 3 000, c'est devenu 2 000. Surtout si c'est, il y a les 2 000, surtout, hein, si c'est le fruit des 3 000. Si c'est le fruit des 3 000. Car si c'est pas le fruit des 3 000, certains ont dit, on peut alors faire un deuxième compte, les mettre de côté, un deuxième compte, et comme ça, pour recompter spécialement pour ces 2 000, faire un compte nouveau. Mais la meilleure des choses, comme disent les savants, c'est de les grouper et de faire sortir à chaque fois la zakat. C'est la première remarque. La deuxième, on ne doit pas se baser sur les mois et les jours chrétiens. Comme ici elle a dit, 1er janvier au 1er janvier de l'autre année. Si on se base sur le calendrier chrétien, on a une petite somme à ajouter. Je crois que c'est au lieu de ces 2,50, au lieu qu'on donne 2,50, je pense on donne 2,75. Car on ne s'est pas basé sur le calendrier musulman, donc on a tardé de 10 jours à peu près. C'est pour cela que je conseille chaque personne qui fait la zakat, elle doit prendre comme repère un jour ou un mois musulman. Disons par exemple chaque ramadan. Chaque ramadan, elle sort la zakat. Par exemple, ou chaque rajab, chaque comme ça, elle doit prendre arabe bi'idhnillahi ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, samedi, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala raffermir nos cœurs, nous apprendre notre religion et nous aider à travailler avec ce qu'on nous apprend et à appliquer. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته